Donc, nous allons recevoir Dominique pour commencer, mais juste avant, un rappel du site internet du docteur Jacques Benveniste, c'est digibio.com, digibio.com.
Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez ?
Oui, oui, on vous entend.
Oui, bonsoir. Alors la question que je voulais poser, en fait, il y en a même deux, enfin, c'est le même genre. Est-ce que M. Benveniste, d'ailleurs, que je félicite de ses travaux et d'avoir eu le courage de continuer malgré les charpacs que je déteste, a connaissance des travaux d'un Japonais qui a fait sur les molécules d'eau. Et justement, la question du journaliste de tout à l'heure sur le nom qui informerait et qui ferait, en fait, qui aurait une action sur la molécule de l'eau. En fait, ce Japonais a photographié des molécules avec une information différente et ça donne des structures moléculaires différentes. Il a fait un bouquin qui a été publié.
Je connais bien.
J'ai des références quelque part, mais je ne les ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas vous donner ni le titre ni l'auteur.
Oui, il s'appelle Emoto. Je le connais bien, je l'ai même rencontré récemment. Alors, si vous voulez, là, vous me placez dans une position difficile parce que moi, je suis très attaqué.
Mais on vous soutient.
Ouais, enfin, il y a des gens qui me soutiennent, mais enfin, de dire par la science, par ma propre maison, qui est la recherche scientifique. Et si je commence à dire qu'un tel n'est pas bien, je me conduis. Enfin, les gens peuvent croire que je me conduis comme les autres. Bon, alors, je dis pas qu'Emoto est pas bien. Emoto a fait de superbes photographies. C'est vraiment son livre est un livre d'art. On peut l'acheter comme ça.
Oui.
Mais je ne crois pas vraiment du tout que, pour le moment, ça ait une valeur scientifique quelconque. Il faut bien comprendre qu'Emoto écrit sur un verre I love you et l'eau
oui.
est belle.
Oui.
Et puis exactement. Il écrit
elle, ou...
fuck you et quoi, l'eau, ouais. L'eau elle est pas belle du tout. Alors c'est quand même très anthropomorphe. Par exemple, il joue du Mozart et l'eau est belle, et du rock et elle est pas belle. Alors.
Oui, mais ça, il y a eu d'autres expériences sur les plantes.
Oui, il y a eu des expériences sur les plantes.
C'est un rapport avec la vibration. En fait.
Oui, c'est vrai. Cela dit, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se passe de bouche à oreille, et quand on cherche véritablement le résultat vrai, fait dans des conditions expérimentales solides, parfois on les trouve pas. Hein. Donc
et les travaux de Jean-Claude Pérez ?
Ah ben attendez, Jean-Claude Pérez c'est complètement différent. Non, non, ça, Jean-Claude Pérez, c'est tout à fait scientifique, c'est tout à fait mathématique. Je suis pas sûr que je comprends très bien ce qu'il fait d'ailleurs, parce que si vous avez parlé avec Jean-Claude Pérez, c'est difficile d'abord de l'arrêter de parler quand il a commencé, encore pire que moi, et ensuite de comprendre. C'est un mathématicien pur, et il fait des travaux notamment sur les prévisions, sur l'évolution de l'ADN, qui sont tout à fait fascinants. Là, il n'est pas non plus accepté.
Oui, il y a un rapport entre la structure de l'ADN et puis certaines suites mathématiques.
De Fibonacci qui est la suite de que l'on trouve dans certains.
Et pour moi, c'est un rapport évident avec le travail des motos. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas du tout. Ouais.
Bah, écoutez, je vois pas. Ce que je sais, c'est que nulle part dans le livre des motos, sa méthodologie était précisée, et par ailleurs. Lorsque je le lui ai demandé, disons que j'ai eu l'impression qu'il y avait un choix, des clichés, et que c'était qu'aucune expérience n'était faite en aveugle, et par conséquent, cela dit, ça ne veut même pas dire que ce qu'il dit est faux, parce qu'il est possible que ça soit vrai en plus.
Oui.
Y a des gens qui ont trouvé des choses intéressantes, la méthodologie n'était pas merveilleuse. Dans toutes les activités humaines, c'est pareil. Il y a des gens qui ont essayé de faire voler des avions, et puis comme ils ne savaient pas très bien, ils se sont cassés la figure. Ça ne veut pas dire pour ça que les avions ne marchaient pas. Il faut toujours avoir un esprit critique dans les deux sens. Mais pour le moment, moi, je ne peux pas considérer qu'Emoto apporte quelque chose.
Je vous ai posé cette question par rapport à ce livre sur des molécules d'eau, en fait, parce que moi, je suis intéressée, en fait, fondamentalement par les travaux de Roland Plochère.
Oui.
Qui a mis au point l'antenne Plochère et qui lui a permis de revitaliser des lacs.
Oui.
Et en fait, ça repose sur le principe de la... Je pense de la... Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est la transmission d'informations par un support, sur un support, et
oui,
ça
oui.
permet de la réactivation de l'oxygène.
Oui, oui, j'ai lu ça, j'avoue
c'est
que je l'ai lu il y a longtemps, j'ai un petit peu oublié.
Oui.
Mais disons qu'il y a beaucoup de procédés.
C'est pas cartésien du tout et les Français ne le supportent pas. Ça existe quasiment pas en France.
Alors non,
En Autriche et en Suisse, il y a des lacs entiers qui ont été, qui sont revenus à la vie, quoi.
Oui, ça ne m'étonne pas et c'est tout à fait imaginable que l'on puisse passer par l'eau et que, enfin, moi je sais que l'eau est capable de, moi dans le temps j'ai fait des expériences très précises en montrant que après avoir exposé de l'eau à un simple aimant permanent, eh bien, l'eau agissait sur un cœur de cobaye de façon différente que si elle n'avait pas été exposée à un aimant. Donc on sait que l'eau est capable d'enregistrer, de véhiculer des informations. Et pourquoi pas, cela dit, à chaque fois, il faut toujours examiner les sources. Et c'est un peu comme les journalistes qui font une enquête. Moi, ce qui me frappe aussi très énormément, c'est de voir que, vous savez, depuis que j'ai publié ces papiers, les gens me prennent pour un spécialiste de l'eau, ce qui est absurde. C'est comme si on prenait un chanteur comme un spécialiste de la bande magnétique. Lui, il s'en sert comme une bande magnétique, c'est tout. Moi, c'est la même chose. Je me sers de l'eau comme une bande magnétique, mais c'est pas pour ça que je suis devenu un physicien du solide. C'est très très complexe. Moi, j'ai eu des tas de propositions, des gens qui sont venus me voir en me proposant telle ou telle activité miracle. Et quand je regardais leurs documents, maintenant je vais sur leur site, je m'aperçois qu'il y a toujours souvent un papier recherche. Et on tombe donc sur les résultats scientifiques et parfois la page est vide où le lien ne se fait pas et où il n'y a pas d'information réelle. Donc là,
ils ne diffusent pas le procédé en tant que tel.
Non, le procédé, on s'en fiche à la limite. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les...
Ils expliquent où ils sont. Moi, j'ai acheté leur bouquin. Il y a les exemples des lacs. Enfin, il y a des gens qui font des recherches en université en Allemagne,
c'est pas dans
le vide, quoi.
Non, mais ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'en France, il y a un mot qui est banni actuellement, notamment en biologie, c'est le mot électromagnétique. Vous avez le droit de dire que les molécules ont des charges, donc de dire qu'il y a des charges électrostatiques, ça pose aucun problème, tout le monde est d'accord, c'est dans tous les bouquins. Mais si vous parlez électromagnétique, alors là, on vous tombe dessus et on vous cite tout de suite Mesmer, etc.
Ah oui.
Lorsque j'ai fait mon article dans Le Monde en 96, bon, j'ai eu des tas d'insultes de bas étage, j'en ai parlé, mais un type comme Axel Kahn, qui, lorsqu'il n'est pas trop prosélyte pour la génétique, est un homme, de toute façon, un homme respectable, mais scientifiquement, m'a répondu d'une façon normale, habituelle, mais à la fin, il m'a quand même traité de Mesmer, si vous voulez, parce que je prononçais le mot électromagnétique. Et alors que dans tous les pays en Russie, il y a des recherches remarquables sur le sujet, en Chine bien sûr, enfin Lantin vient de faire un livre, enfin il a sur les ondes qui tuent, oui, il donne beaucoup d'informations et on voit à quel point les Français sont en France, pas question qu'il y ait une équipe, je crois qu'il y a une équipe qui travaille sur ces
Mais d'ailleurs, je sais pas si vous savez que Mattei, qui a fait partie de la commission d'études, la commission d'enquête sur la malfaisance des antennes relais, va remettre la loi qui a été votée par le gouvernement soi-disant socialiste, parce que lui, je pense qu'il est un peu plus scientifique dans le sens correct du terme, et qu'ils savent très bien que les antennes relais à moins de 3 mètres des habitations et des êtres vivants, c'est hyper nocif. Mais je pense que c'est aussi grâce au bouquin de Jean-Pierre Lantin.
Oui, c'est tout à fait possible.
Ouais. Heureusement qu'il était là, celui-là aussi.
Oui.
Mais c'est vrai. Enfin, moi, je suis vachement contente que vous parliez. Ça m'a. Je pensais à vous depuis un bout de temps. J'écoute rarement si tard, mais c'est vraiment bien, quoi. J'espère que l'émission sera rediffusée sur ici maintenant.
Oui, elle sera d'ailleurs diffusée après le départ, le plus tard possible, de Jacques Benveniste. Elle sera rediffusée ce soir même, depuis son début.
Ce soir vraiment.
Dans le prolongement de cette émission, nous
installons
une boucle cette nuit. Ça sera diffusé également.
C'est vraiment pas le couche-tard,
ça. Également.
Attends
une seconde. Ça sera diffusé également les deux premières heures, c'est-à-dire jusqu'à ton intervention incluse, ce dimanche à 15h sur l'antenne 95.2, en même temps que sur le net. Et j'annonce aussi qu'il y a une vie entre 7h et 14h. Sur internet ici et maintenant.com, puisque demain matin, nous allons diffuser non, après-demain matin, pardon, nous avons diffusé la première archive de l'intervention de Jacques Benveniste que nous avons retrouvée et dont nous avons l'intégrale en 1995. Et dans les 48 heures qui suivent, celle d'aujourd'hui. Donc il y a une vie sur ici-maintenant.com,
ah oui,
voilà, sur l'internet.
Ok, j'ai plus de questions à poser.
Bon, ben, Dominique, branchez-vous sur le site et
si
vous avez d'autres questions courtes, avec une réponse courte, on se fera un plaisir de, de poursuivre l'échange.
Merci et bonne soirée.
Merci Dominique.
Au revoir.
Nous accueillons Ono et l'un des deux standards vient évidemment par conséquent de se libérer. C'est le 44 deux fois. Non, c'est le 45 deux fois. 01 45 75 45 45. Bonsoir Ono.
Bonsoir l'équipe. Et bonsoir Monsieur Benveniste.
Bonsoir.
Il est vrai que j'ai assisté il y a quelques années à un colloque de physiciens. Il y avait une fermeture. Il y avait une fermeture chez ces gens-là. Hein. C'était vraiment de la physique de Crouton. Bon, j'ai pas de connaissances en physique, mais là j'ai parcouru sans acheter le livre de Charpak, mais c'est une honte, quoi. C'est une honte pour un prix Nobel d'écrire un livre aussi peu structuré, quoi, aussi peu
crédible. Non, il me semble que ce soit pas lui qui l'ait écrit d'ailleurs, hein. C'est surtout Brock. Pareil, c'est un remake d'une republication de l'écrit précédent de Brock et Charpak a cautionné, quoi.
Oui, oui.
Mais ce sont des, il faut prendre ces gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce sont des idéologues, ce sont des militants, et bon, voilà, ça n'a rien de, ça n'a absolument rien de scientifique.
Quoi, je suis fier de l'avoir lu dans la librairie, mais de pas l'avoir acheté, quoi. Et sur la détection des maladies, vos recherches, ressemble à celle de Joël Steinmeier. Je ne sais pas si vous connaissez.
Steinmeier,
un physicien.
Oui, je le connais bien, oui.
Qui a travaillé avec De Broglie.
Oui.
J'ai assisté pendant un an à son séminaire. Et il envisageait, mais peut-être pas pour tout de suite, de détecter la fréquence des virus. Et ensuite, avec le son, son séminaire, c'était la musique des particules. Et avec le son, d'essayer de détruire la fréquence des virus, quoi.
Oui, j'avoue que moi, enfin, Steinmeier est un grand mathématicien, très haut niveau, et j'ai un petit peu de mal à. Et il s'exprime un petit peu comme dans les bandes dessinées, voilà. D'Astérix, vous savez, quand il est en Égypte, les Égyptiens, dans les bulles, il y a des hiéroglyphes, quoi. Et quand les physiciens parlent, ils parlent souvent avec des équations qui ressortent de la bouche.
J'avoue que j'ai rien compris.
Ouais, j'ai du mal à comprendre ce que fait Steinmeier. Enfin bon, il arrive par ses ondes d'échelle à déterminer le son correspondant à certaines molécules.
Ouais.
Et il a fait des expériences. Donc c'est assez, oui, il a fait des expériences. C'est assez, avec des systèmes complètement différents. C'est dans la lignée, effectivement. C'est à rapprocher de ce que nous faisons.
Oui, oui.
Tu l'as dit, j'ai jamais pu faire d'expérience avec Steinmeier. Ça, c'est sûr difficile.
Oui, c'est très compliqué ces équations. Évidemment, j'ai rien compris. Mais...
Voilà.
Ce que je voulais dire, moi, j'ai eu des expériences chez les Krishna, par exemple. D'ailleurs, j'avais interrogé Joël Steinmeier si le sucre pouvait avoir une mémoire, quoi.
Et s'il y a de l'eau avec, oui.
Oui, s'il y a de l'eau, voilà. Et je me souviens, dans mes recherches spirituelles chez Krishna, on faisait des rituels sur les murtis. C'est-à-dire, ce sont des statues de Krishna ou des divinités hindoues, quoi. Et je me souviens qu'après avoir bu ce liquide et avoir pris une nourriture aussi qui avait été, entre guillemets, magnétisée avec un psychisme et tout un référent disons, de la galaxie des Krishna, quoi. Et là, j'avais senti vraiment des effets comme si j'avais pris drogue, quoi. Une drogue.
Oh non, c'est gentil, je me permets de,
oui.
d'interrompre Jacques Benveniste avant même qu'il te réponde pour essayer de recadrer. C'est gentil de Krishna, mais on essaye d'être dans un niveau scientifique.
Oui, 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 non, après, non, mais moi je parle d'une expérience que j'ai vécue.
L'expérience personnelle, n'est-ce pas, Jacques Benveniste, c'est un petit peu.
J'ai un point de vue très légèrement différent. Moi, je veux dire que si on dit que. On fait trois signes de croix à l'endroit et trois signes de croix à l'envers et qu'on guérit le cancer. A priori, sauf si les gens sont des escrocs financiers, je crois ce qu'on me dit. Oui, bon d'accord. Mais alors maintenant, on va le démontrer. Alors dans ce que vous venez de décrire, il y a toute une série de manœuvres qui ont eu lieu, quelles qu'elles soient, 1, 2, 3, 4, 5. Et ma question est extrêmement simple. Est-ce qu'on a fait exactement la même chose en vous disant que vous alliez avoir le même effet, mais en vous donnant des produits ou en faisant des actes qui ressemblent mais qui ne le sont pas.
Oui, oui, non, non.
Et
non.
À partir de là, moi, je considère que ça fait partie de ce qu'on dit, mais ça n'est pas pour cela que ça existe réellement en tant qu'effet. Voilà.
Il y a une méconnaissance en ce qui concerne certaines analyses sur ce sujet-là.
Oui, alors c'est bien. Si les gens se sentent bien et qu'ils font de tort à personne,
non, mais je parle pas
spécifiquement. En continuant dans cette voie, je comprends que tu donnes raison à un Charpak borné. C'est moi qui l'ajoute. Parce que effectivement, s'il entend cette émission, il peut être cohérent et éveillé par certaines remarques pertinentes de Jacques Benveniste et se dire de bonne foi, une fois, je peux effectivement m'y pencher plus sérieusement. Mais là, en entendant une intervention aussi personnelle, c'est à décourager, quoi. L'aventure intérieure personnelle, c'est une chose.
Non, il ne faut pas se laisser décourager si facilement. Bon, l'aventure est une chose, mais il y a des interventions qui peut-être ont un effet psychologique ou physiologique. La seule chose qu'on demande, c'est qu'elles soient démontrées. Mais en l'occurrence, ce que vous dites, ça fait partie effectivement de l'expérience personnelle. Alors en plus, bon, moi je dois vous dire, cela dit, chacun est libre sans attitude. Mais j'ai un recul devant les philosophies extrême orientales parce que à l'œuvre, je trouve pas que ça donne des résultats dans ces pays qui sont assez extraordinaires. Mais enfin bon, ça c'est un point de vue personnel.
Pas le droit. Bon, je vois que on comprend pas la problématique.
D'accord.
Bon, je vous remercie pour votre émission, monsieur.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir. Nous accueillons Don Quichotte sur le standard. Pendant ce temps, le 01 45 75 44 deux fois est libre. 01 45 75 44 deux fois. Don Quichotte, bonsoir.
Bonsoir, messieurs. Monsieur Benveniste, j'ai d'abord une petite question préliminaire et ensuite une comparaison, ou une tentative de comparaison. Question préliminaire. Ne peut-on rapprocher votre cas de celui de monsieur Beljanski?
À savoir, pour les auditeurs?
Je parlerai de persécution, entre guillemets, d'incompréhension. Ou alors, penser que l'un comme l'autre sont des sortes de Don Quichotte. Si j'ose dire.
Écoutez, moi j'ai rencontré Beljanski. Ce que je sais, c'est que Beljanski, à l'Institut Pasteur, en tant que chercheur classique, a fait une découverte qui est probablement celle de la reverse transcriptase, c'est-à-dire de cette fameuse enzyme qui permet au virus du sida de s'inscrire dans l'ADN. Et que ça s'est mal passé parce que cette brèche au dogme qui faisait que l'information ne peut aller dans un sens, je connais pas tous les détails, mais Beljanski est effectivement, comme moi, un chercheur classique, qui a été mis à la porte de l'Institut Pasteur pour des raisons de dogmatisme scientifique, ça c'est vrai. Après, moi je prendrai pas parti sur les remèdes Beljanski. C'est vrai qu'il n'a pas eu la possibilité de faire des expérimentations. Et Beljanski a choisi une voie extrêmement difficile puisque il est tout de suite passé à des thérapeutiques. C'est comme si moi je vendais mon appareil en disant vous n'avez pas besoin de prendre des bêta-bloquants, vous n'avez qu'à prendre un verre d'eau dedans. Peut-être que ça marcherait, mais disons que on peut pas aller aussi vite. Donc il a eu des problèmes. Après ça, on s'est conduit avec lui d'une façon absolument scandaleuse, honteuse, et on continue d'ailleurs à le faire, parce que il semble pas que ce que faisait Beljanski portait tort aux gens. Enfin, je suis incapable de juger, je connais pas le dossier. Bon, enfin, bon, disons que pour pas faire des un cas personnel, il y a actuellement une attitude d'intolérance à toute idée nouvelle. Je peux vous citer un homme comme Jean-Pierre Petit qui a eu le malheur de s'intéresser à un moment donné à ce qui aux ovnis, qui pourtant sont des sujets d'étude de tous les gouvernements dans le monde, et qui immédiatement a été rejeté par la communauté scientifique, même lorsqu'il fait des travaux d'astrophysique de très très haut niveau. Eh bien, il est considéré comme quelqu'un définitivement marqué au fer rouge parce qu'un jour il a écrit un livre où il disait ben voilà, j'ai reçu des lettres bizarres, il y a des gens qui disent que ça provient d'extraterrestres. Sans y croire vraiment, mais bon, en posant la question, mais non, on ne peut même pas poser la question, et du coup on est immédiatement éliminé. Voilà, je trouve que la science, l'institution scientifique se tire une balle dans le pied à chaque fois, parce que il y a beaucoup de choses qui sont fausses et qui se révéleront fausses. C'est le jeu normal de la science. Mais il vaut mieux passer au crible 90 choses fausses pour en trouver une qui ne l'est pas que de tout foutre en l'air au risque de perdre des avancées importantes. Voilà ce que je peux dire.
Dites-moi, je ne regrette pas du tout d'avoir posé cette question préliminaire parce qu'elle amène ma tentative de comparaison. Si j'ai bien compris, vous avez dit, et en substance, que la recherche pédalait dans la choucroute. Et j'ai pensé qu'il en était de même pour la langue française. Et pour la langue française, bon ben, on l'a bloquée, on l'a coincée, il y a, je crois, un siècle et demi, notamment en ce qui concerne la féminisation des noms. Puis d'un seul coup, on n'a plus rien féminisé. Alors qu'à une époque, ben, il était normal que les instituteurs existent, et ben, ensuite que les institutrices existent, on ne s'est pas posé de problème. Un mot plus compliqué comme instigateur a donné instigatrice, corrupteur, corruptrice, et puis maintenant, d'un seul coup, il n'y a plus de féminisation. Alors on dit toujours madame le directeur des ressources humaines, madame le directeur de cabinet, madame le recteur, et donc on a l'impression qu'on a été bloqué depuis un siècle et demi, et donc, comme j'ai essayé de le dire pour ne pas reprendre vos termes à vous, on a l'impression que ça pédale dans la choucroute, aussi bien du côté de la science, de la recherche scientifique, que du côté de la langue française.
Oui, oui, vous avez peut-être raison. Alors, on pourrait aussi dire que quand on crée des académies, on fige les choses, et que l'Académie française a contribué à figer et l'Académie des sciences du temps où en France, elle était une institution internationalement reconnue, elle ne l'est plus maintenant. Avec les académiciens qui seront encore académiciens, mais effectivement peut-être. Cela dit, si on veut faire une diversion, et je vais apparaître comme peu politiquement correct, moi ce qui me frappe dans cette histoire de féminisation, c'est qu'on demande de féminiser beaucoup de mots comme directeur, directrice, ministre, la ministre, etc. Mais il y a toute une série de mots qu'on ne demande pas de féminiser. Par exemple, on ne demande pas de féminiser les pêcheuses en haute mer, ni les mineuses, ni les démineuses, ni les couvreuses, ni les élagueuses. Enfin, disons que les métiers dits masculins, en général dangereux et pénibles, là, je vois pas de revendication. Mais ça, c'est pour me moquer un peu gentiment de nos consoeurs, quoi. Voilà.
Je terminerai sur une boutade. Je me mets à la place d'un proviseur ou d'un principal qui dirait j'ai renvoyé l'ascenseur. En parlant de sa collaboratrice.
D'accord.
Voilà. Je vous remercie, monsieur, et je continue à écouter.
Merci.
Merci, Don Quichotte. En attendant, l'intervenant suivant, 01 45 75 44 44 ou 01 45 75 45 deux fois. Nous avons deux remarques sur le chatroom, le salon, l'invité du jour sur ici-et-maintenant.com. La première réaction d'un auditeur nous disant « En France, on accepte l'idée des ions, mais pas des molécules électromagnétiques, avez-vous dit. Pourriez-vous développer, Jacques Benveniste ?»
On accepte l'idée des ions. Qu'est-ce que ça veut dire, les ions? Les ions existent.
Mais pas des molécules électromagnétiques.
Il y a des problèmes.
C'est ce que vous auriez dit il y a quelques temps. C'est une phrase qui a été comme ça, sortie de son contexte.
Oui, les ions, c'est de la chimie électronique. C'est selon le nombre d'atomes qui se trouvent sur les différentes couronnes. Voilà, pour simplifier, et puis je suis pas chimiste. Non, les ions, c'est plutôt, enfin, si je devais les caractériser, ce serait plutôt dans la catégorie de ce qu'on accepte en France, c'est-à-dire les charges électrostatiques qui se trouvent sur les différentes les atomes et les molécules. Ce que l'on n'accepte pas, c'est que les molécules puissent émettre un champ électromagnétique à distance, puissent se comporter comme des émetteurs. Qu'ils soient porteuses de charge, oui, mais que ces champs électromagnétiques puissent véhiculer une information, c'est quelque chose qui, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, puisque la TSF fait ça depuis un certain temps, dirons-nous, eh bien, effectivement, on l'accepte pas. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Il faudrait poser la question. Le problème, c'est que moi, je n'ai jamais eu, depuis 15 ans, la moindre discussion et la moindre critique scientifique avec ces scientifiques. Jamais aucun d'entre eux. Et je peux vous dire que j'ai rencontré Charpak à de nombreuses reprises. J'ai rencontré Degène, qui m'a parfois fait des suggestions un peu simplettes, parce qu'il comprenait pas le système dans lequel je travaillais, et qu'il ne se donnait pas la peine de le comprendre, parce que c'était un homme très intelligent. Mais à aucun moment je n'ai eu la moindre discussion, et donc je ne peux pas vous dire pourquoi il refuse cette idée. Mais dans l'ensemble, la recherche sur les champs électromagnétiques est extrêmement développée. Il y a une société qui est spécialisée dans cette thématique, qui fait des congrès internationaux régulièrement, et je peux vous dire que les Français sont beaucoup moins bien représentés que les Polonais, les Albanais, ou évidemment les Chinois. Le thème de recherche en France n'est pas accepté, voilà, c'est comme ça. Mais vous savez, comme je l'ai dit, les Français n'aiment pas les idées neuves. Les Français sont excellents pour développer, ils n'ont pas inventé les trains, ils font les meilleurs trains du monde. Ils n'ont pas inventé les avions en réaction, ils font probablement les meilleurs avions du monde à l'heure actuelle, ils n'ont pas inventé les fusées. Et je pense qu'en France, on a du mal à accepter, parce que on a des gens qui reçoivent une éducation très descartienne, je dirais pas cartésienne, et qui croient que si l'on ne peut pas faire un raisonnement a priori sur les faits qu'on vous présente, eh bien, ces faits n'existent pas. Understand. I do not, therefore it is not, comme disent les anglo-saxons. Je ne comprends pas, donc ça n'existe pas. Voilà, maintenant je ne peux pas aller plus loin, je ne sais pas pourquoi, effectivement, les mots électromagnétiques, et notamment bannis de... Alors pas des gens qui font de l'électromagnétisme au sens physique, hein, il y en a, j'en ai rencontré même des très bien, mais associer les molécules biologiques à un effet électromagnétique est considéré comme de la sorcellerie, voilà, une fois pour toutes.
Mais la molécule doit avoir une capacité émettrice, ça suppose donc une énergie et un dispositif émetteur. Comment vous expliquez ça?
Ah ben ça c'est très intéressant. Ce que je peux vous dire, c'est que nous on a des expériences fascinantes là-dedans. C'est lorsque l'on met des molécules dans une cage de Faraday et qu'on capte leur message, eh ben on capte rien. Enfin c'est pas une cage de Faraday, c'est un système d'isolement électromagnétique très complexe et qui couvre l'ensemble des champs. Mais dans ces conditions, on capte rien. Et si on ajoute une série de fréquences, par exemple un bruit blanc, les molécules émettent un signal. En fait, les molécules biologiques semblent actionnées par un environnement électromagnétique. Et il n'est pas impossible que ce soit les champs électromagnétiques provenant du système solaire qui aient permis aux premières molécules, lorsqu'elles ont été formées, de se mettre à vibrer exactement comme une corde de piano vibre sous l'effet d'un marteau, quoi, si vous voulez. On peut donc dire, on peut extrapoler et dire que dans sa fonction de formation de la vie, Dieu, pour ceux qui y croient, est un champ électromagnétique, voilà.
Mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de l'appeler Dieu ni d'avoir à y croire, puisque la vie même est un champ électromagnétique.
Absolument, mais je l'ai dit d'une telle façon que ceux qui y croient peuvent le prendre comme ça, et ceux qui, comme moi, n'y croient pas, peuvent considérer qu'effectivement, le mot est inutile, voire parfois même dangereux.
Oui, inutile et dangereux, puisque l'électromagnétisme...
Non, il est dangereux parce qu'on tue beaucoup au nom de Dieu, c'est ce que je veux dire. Enfin, c'est un autre sujet.
Beaucoup moins au nom du champ électromagnétique.
Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore de contrat sur ma tête. Donc, voilà.
Est-ce que vous avez connu, nous demande un auditeur toujours sur le chatroom de ici-et-maintenant.com, est-ce que vous avez connu, approché Jacques Ravatin et ses travaux, les ondes de forme, la radionique? Et plus précisément, il évoque des travaux similaires avec les transformations d'informations sur CD-ROM.
Transmission de l'information sur CD-ROM, c'est ce qui est écrit là. Mmh. Non, je connais pas Jacques Ravatin, ou alors j'ai pas une grande mémoire des noms, et peut-être que je l'ai rencontré, je m'en souviens plus. J'ai été approché par des gens qui travaillent sur la radionique, et qui... Alors la radionique, c'est encore beaucoup plus révolutionnaire, et difficile à comprendre que la mémoire de l'eau avec ses actions à distance. Ben, disons que... J'ai pas d'opinion sur le sujet, j'ai pas travaillé dessus, je pourrais pas dire quelque chose d'intelligent, même de quelque chose tout court. Donc, je crois qu'on peut travailler sur la radionique et savoir si oui ou non, parce que ça peut se travailler, à mon avis, d'une façon expérimentale. Moi, j'ai avancé assez vite parce que je travaille dans un système expérimental. Quand vous travaillez sur des populations humaines, il vous faut 10 ans pour vous faire une opinion sur l'effet de quelque chose. Est-ce que lorsque vous avez un système expérimental au laboratoire, en quelques jours, on peut avancer très vite? Et je pense qu'on doit pouvoir travailler sur radionique, mais c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon sujet, donc je peux pas dire de choses dessus.
Bien. Je rappelle le numéro du standard, 01 45 75 44 44, ou 45 45. Nous sommes avec le docteur Jacques Benveniste, tout prêt à répondre à vos questions, y compris les questions par écrit, dans le salon L'invité du jour, c'est le nom du salon, sur ici-et-maintenant.com. 01 45 75 44, deux fois, ou 01 45 75 45 deux fois. Nous accueillons Christophe sur ici maintenant.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Benveniste.
Bonsoir.
Je suis complètement béotien en la matière. J'ai rien lu de ce que vous avez fait. Enfin, je connais grosso modo, pour moi, je vous associe à la mémoire de l'eau. Je me posais une question toute bête. Est-ce que par la mémoire de l'eau, on pourrait reconstituer des civilisations disparues, genre Atlantide? Est-ce que l'eau pourrait donner des signaux dans un tel registre?
Ah, c'est un rêve assez... Je me souviens que J'avais fait un texte pour une jaquette d'un CD d'une boîte qui faisait de la musique de différentes origines ethniques, qui s'appelait Origins, je crois, Origins. Et j'avais écrit peut-être qu'un jour on pourra, si de l'eau est restée bien protégée dans quelques dans l'épaisseur de quelques roches, on pourra réécouter la voix de Vercingétorix, ou plus intéressant, Diane de Poitiers. Bon, c'était une boutade. C'était simplement pour dire que l'eau est effectivement capable d'enregistrer des fréquences dans la bande audio, mais bon, il faudrait qu'on puisse imaginer quelque chose qui ressemble à un champ électromagnétique naturel qui serait modulé par quelques procédés. Tout cela est... Donc, si je vous disais que... oui, c'est possible. Imaginez que la réaction des scientifiques en disant « on vous a dit qu'il était fou ». Pourtant, il y a quelques années, toujours Charpak, qui a décidément fait un bien bon sort dans cette émission, avait proposé, semble-t-il sérieusement, qu'on pouvait imaginer que des paroles étaient restées gravées sur des vases qui étaient tournés par les potiers, parce que pendant que ça tournait, ça ressemblait à un disque, quoi. Et dans le sillon en question, on pouvait retrouver des vibrations. Pardon ?
Métal contre terre cuite.
Oui, c'est ça, métal contre terre cuite.
Donc, il y aurait différentes qualités d'eau, plus ou moins chargées de mémoire, selon leur état de conservation ou les lieux où elles ont été...
Non, moi je crois que ça me paraît très, 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 très peu probable, et ça fait partie de la part de poésie que tout un chacun, et pourquoi pas les chercheurs, peuvent s'autoriser. Moi, j'ai même proposé que, finalement, il fallait bien qu'à un moment donné, quelque chose fasse vibrer les premières molécules, et pourquoi pas le champ de l'eau sur les pierres. Vous savez, lorsque l'eau dans un torrent, dans une rivière, dégringole sur les pierres, ça fait des bruits, ça chante. Et que ces vibrations dans la bande audio pouvaient interagir et co-résonner avec des molécules. Mais c'est du domaine de la poésie pure. Il faut s'amuser, il faut jouer avec les idées qu'on peut avoir. Maintenant, vous dire qu'on va trouver un enregistrement dans une pyramide d'Égypte et qu'on va y entendre la voix de tel pharaon, bon, alors là, moi je suis pas prêt à franchir le pas, franchement.
Au contraire, alors finalement, vous dites, l'eau c'est un seul corps, par exemple la mer, les océans, qui sont tous en corrélation, on pourrait découvrir, je sais pas, au Cap Horn, quelque chose qui se passe en Méditerranée, par la mémoire de l'eau?
Non, alors là, justement pas, parce que une des bonnes façons d'inhiber, si vous avez dans un tube un effet biologique que vous avez introduit par l'intermédiaire d'un système informatique, électromagnétique, donc vous avez une activité que vous pouvez détecter, si vous voulez la supprimer, vous rajoutez du sel et vous agitez. Et ça supprime instantanément. Il y a un phénomène de je ne peux pas l'expliquer, de shunt, de court-circuit, de quenching, comme on dit en anglais, et qui fait que l'activité disparaît instantanément. Alors quand les gens me disent ah bah oui, mais on va avoir le caca des poissons du temps de Jésus-Christ qui va s'être inscrit dans la mémoire de l'eau, comme ça a été très élégamment écrit par des revues pseudo-scientifiques extrêmement rationaliste au mauvais sens du terme, eh bien non, parce qu'il y a plein de systèmes qui effacent ça. Le premier, c'est la chaleur, 70 degrés, ça efface tout. Et l'eau, quand elle descend dans la terre, elle est chauffée assez facilement. Et puis, probablement l'évaporation, mais ça j'ai pas fait l'expérience. Et en tout cas, l'agitation dans un milieu salé. Alors,
d'où l'intérêt des salles de bain pour ne pas se baigner dans la même eau que Jules César, quoi.
Voilà, des salles de bain, oui, des salles de bain, absolument. Il a tout à fait raison. Et moi, je me suis toujours demandé à quoi servaient les vagues, parce que, n'est-ce pas, il faut être finaliste, et les vagues, c'est de l'énergie perdue. Alors, s'il y a un bon Dieu, il aurait pas dû permettre ça, qu'on perde autant d'énergie pour rien. Et ben, maintenant, je sais, les vagues, c'est fait pour effacer la mémoire de l'eau. Voilà. Accessoirement, malheureusement, pour faire couler les bateaux. On l'a vu, on le voit dramatiquement en ce moment. Non, tout ça, c'est du domaine il est tard, on est en pleine nuit, on a le droit de laisser vagabonder l'imagination.
Bon, mais écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. D'accord. Je vous remercie beaucoup de vos réponses, en tout cas, et puis je vous souhaite une bonne continuation pour cette émission.
On va essayer, merci.
Merci Christophe. Donc, 01 45 75 44 44 ou 45 45. En attendant vos appels, un auditeur sur le chatroom demande au docteur Jacques Benveniste quels sont les livres que l'on peut trouver. Supposer qu'on n'ait pas Internet et qu'on ne puisse pas consulter digibio.com, quels sont les bouquins que vous recommandez?
Eh bien, il y a un livre que j'ai écrit mais que vous ne pouvez pas trouver parce que je ne l'ai pas publié. Il est encore sous mon coude et j'attends que l'histoire arrive à son terme, quel qu'il soit, pour le sortir. Donc c'est pas là-dedans qu'on trouve les informations. Il y a le fameux livre de Michel Schiff, qui a été publié il y a plusieurs années chez Albin Michel.
Toujours disponible?
Un cas de censure en assurance, il doit y en avoir des exemplaires encore disponibles. Moi je crois même que j'en ai encore une petite dizaine, mais je crois qu'il y en a encore chez Albin Michel.
Schiff, S-C-H-I-2-F.
S-C-H-I-2-F, Albin Michel, un cas de censure en assurance, mais il date de peut-être même non d'une dizaine d'années, peut-être un peu moins, mais enfin bon. Et il n'est pas up to date, comme on dit, il n'est pas vraiment
les
dernières informations, mais il raconte bien toute l'histoire depuis le début. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver sur le plan livre. Il y a d'innombrables articles, et si vous tapez sur un site de recherche Mémoire de l'eau, Memory of Water, ou même mon nom, vous trouverez une documentation extrêmement importante et vous pourrez avoir beaucoup d'informations.
Et lorsqu'on la trouve en anglais, parce qu'il y a beaucoup d'informations en anglais vous concernant,
oui.
On peut aussi demander au moteur de recherche de la traduire, ça sera assez approximatif,
oui.
Mais ça donnera bien une idée de votre rayonnement, en tout cas, votre rayonnement international.
Bah, c'est-à-dire que je peux pas faire le jeu de mots en français. Mais en anglais, je suis famous et infamous, c'est-à-dire fameux et infâme. Mais bon, c'est très bien, ça veut dire que... Il est vrai que dans les pays anglo-saxons, il y a énormément de gens que ça intéresse. En Amérique latine, beaucoup, et en Russie aussi. Si je voulais, je pourrais passer mon temps à voyager et aller un peu partout faire des conférences, mais c'est pas vraiment... En ce moment, mon truc, quoi.
Et vous faites ça le comble dans les universités, par exemple?
Lorsque je suis invité, oui. J'étais invité à Stanford il y a 2 ans. J'étais invité à Cambridge et il y avait effectivement beaucoup de monde. C'est pas pour ça que les gens sortent de là en disant il a raison, mais ça fait du... À l'heure actuelle, il y a un mouvement d'idées qui est plutôt en faveur de ces résultats. Ne serait-ce d'ailleurs que le simple fait que ça fait quand même maintenant 15 ans que... Et que personne n'a trouvé un argument scientifique contre, ni un artefact, ni une erreur, ni rien du tout.
Qu'est-ce qu'on appellerait un artefact à part un artifice?
Ben, un artefact, ça serait, par exemple, supposer que je dise que l'eau a la mémoire de l'héparine, mais il y aurait eu de l'héparine dans un tube mal nettoyé, et ça serait en fait de la vraie héparine qui ferait le travail. Vous voyez, bon. La fraude serait d'ajouter soi-même de l'héparine dans le tube et le faire savoir. Mais l'artefact, c'est ça, c'est un piège expérimental qui fait qu'on croit qu'on voit un effet et qu'on ne le voit pas. En général, 1 an, 2 ans après un papier qui sort et qui révolutionne un peu les choses, on s'aperçoit qu'en fait, on avait pris pour tel résultat quelque chose qui n'en était pas. Voilà.
Bien, le standard sonne en permanence, mais apparemment, ce sont des auditeurs qui ont préféré laisser leur numéro masqué. Alors nous avons préféré ne pas prendre les interventions masquées, tout simplement. Donc, pour les courageux, 01 45 75 44 44 ou 45 45. ne nous faites pas croire que la fréquentation téléphonique de Jacques Benveniste est infamante. Vous avez intérêt et avantage à le fréquenter. La possibilité vous est donnée ce soir par téléphone. Profitez-en, puis arrivez démasqué. C'est simple comme tout. Sur le site internet, qu'est-ce qu'on nous dit? Je découvre en même temps que vous, Tony nous dit, si on peut poser une question, je dirais ceci. Compte tenu de l'effet des signaux électromagnétiques sur les molécules, et pourquoi pas les cellules du corps, ne peut-on s'inquiéter des effets de certaines pollutions électromagnétiques et leur impact sur la santé, y voir une cause de certaines maladies?
Ben, disons que quand on se trouve dans la situation où l'on pose des questions sur l'existence de troubles pathologiques, qui sont des maladies, ben, il faut commencer par affirmer l'existence de ces troubles. Et donc, dans l'état actuel des choses, il y a énormément d'études, d'enquêtes qui sont faites et qui donnent des résultats qui sont souvent contradictoires. Il y a des enquêtes qui tentent à pointer l'effet des champs électromagnétiques et d'autres qui pensent que, ou qui décrivent une absence d'effet. Là encore, on ne sait pas tout. Il y a des résultats qui sont actuellement occultés et qui permettent d'imaginer que c'est pas forcément les champs électromagnétiques classiques tels qu'on les connaît ou qu'on les actuellement les décrit qui pourraient agir. Voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est la chose suivante. Lorsqu'on lit un travail de recherche fondamentale, puisqu'il y en a beaucoup, notamment aux États-Unis, sur les effets des champs électriques ou électromagnétiques sur les cellules ou sur les molécules. Très souvent, les articles se terminent en disant « Ben voilà, nous avons constaté un effet des champs électromagnétiques ou des champs électriques sur des systèmes in vitro, mais on ne les comprend pas parce que la biologie n'est pas électromagnétique. » Alors, on ne sait pas pourquoi ça agit. Puisque la biologie, c'est fait de molécules qui se rentrent dedans les unes dans les autres, se donnent des coups de poing dans l'œil, donc des choses purement physiques. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est que effectivement, comme nous savons que les molécules échangent des signaux électromagnétiques, il est possible que des signaux électromagnétiques interfèrent. La base théorique existe, mais c'est pas pour cela que vous allez attraper une leucémie en manipulant votre ordinateur. Voilà, il faut après ça faire des études épidémiologiques et montrer qu'il y a effectivement relation de cause à effet entre la manipulation de tel et tel système et telle ou telle maladie. On n'en est pas là pour le moment. C'est un travail difficile et puis qui nécessite des ressources importantes et bon, elles sont pas illimitées. Mais disons que nos travaux, enfin mes travaux en particulier, montrent qu'il y a une base possible. C'est-à-dire qu'effectivement, il existe des signaux qui circulent d'une molécule à l'autre, qui sont la base même du fonctionnement des systèmes biologiques et qui peuvent donc être sensibles, tout comme vous pouvez effacer une bande magnétique, la voie sur une bande magnétique avec un aimant, tandis que si vous promenez un aimant devant votre bouche, ben ça fera rien du tout, parce que là, c'est pas un champ électromagnétique, mais c'est une parole avec des vibrations dans l'air, et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur une bande magnétique. Donc on peut effacer une bande magnétique, on ne peut pas effacer la parole. Donc si la biologie se résume, si la biologie est électromagnétique, les champs électromagnétiques peuvent agir sur des phénomènes biologiques, mais ça ne veut pas dire que tous les champs électromagnétiques agissent sur tous les systèmes biologiques.
Voilà, Tony, la réponse à cette question sur le chatroom de ici-et-maintenant.com. Nous recevons Dominique.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, j'ai lu le petit, enfin, ce qui était marqué sur le net. Et je voudrais poser une question. Enfin, en écoutant, j'ai l'impression qu'on pourrait dire qu'à travers la mémoire de l'eau, il existe en fait une réalité psychique de la molécule en dehors de de la perception physique qu'on peut en avoir.
C'est la même Dominique que tout à l'heure ?
Non, pas du tout.
Une autre Dominique ?
Voilà.
Bon, c'est ce qu'on appelle la loi des séries. je ne comprends pas ce que vous dites. Alors, je peux pas vous répondre. Pourquoi, quel rapport il peut y avoir entre le fait d'appliquer des champs électromagnétiques entre 20 Hz et 20 kHz et la représentation psychique d'une molécule? Je ne comprends pas.
Bah, c'est-à-dire, quand il y a une molécule, c'est physique. C'est quand on absorbe le médicament.
Oui.
C'est, enfin, moi, je dirais corporel, c'est peut-être pas le terme, mais c'est physique, c'est de la matière.
Oui.
Quand il n'y a pas de matière, C'est-à-dire que l'eau arrive à garder la mémoire sans la matière.
Oui.
C'est ce que j'appelle, moi, réalité psychique.
Et pourquoi ?
Ma façon à... parce que le corps n'y est plus, la matière n'est plus là.
Mais c'est pas pour ça que c'est psychique. Quand vous enregistrez votre... Enfin, en ce moment même, vous n'êtes pas dans la pièce et votre voix me parvient. C'est pas psychique, c'est électromagnétique. Pourquoi est-ce
D'accord, alors c'est électromagnétique, en fait.
Bah oui, le psychisme, ça existe. Hein. Je ne nie pas l'existence du psychisme, mais je vois pas le rapport. Ça, c'est une copie. Nous faisons une copie électromagnétique de la molécule, exactement comme vous faites une copie de votre corps quand vous prenez une photo de votre visage. Quand vous faites une photo, et ça n'a rien de psychique, c'est une copie sur papier argentique ou maintenant sur support numérique, c'est tout, c'est une copie.
D'accord, donc moi je pensais que c'était une intelligence quelque part de la molécule qu'on arrivait à capter.
Non, la molécule, elle vibre parce que c'est comme si vous me disiez qu'une corde de piano a une intelligence quelconque, une corde de piano, selon sa longueur, vous cognez dessus et vous obtenez un son. Et puis voilà, donc c'est un et puis ce son, vous pouvez le mettre sur une bande magnétique, à ce moment il n'y a plus de corde de piano, il n'y a plus rien, il y a juste des polarisations de petites particules de fer, mais il sort exactement la même musique, enfin bon, presque exactement, et en tout cas vous pouvez la reconnaître.
Et là-dedans il n'y a pas de place. En fait.
Pardon ?
Ce sont des signaux.
Ce sont des signaux électromagnétiques, ce sont des bandes de fréquence.
D'accord. Bah, je vous remercie. Ça m'a apporté un éclairage que j'avais pas parce que je l'ai interprété à ma façon, quoi.
Bah oui, c'est-à-dire qu'on a un peu tendance à mettre beaucoup de psychisme partout. Parfois, il y a des explications plus simples à l'heure actuelle. Nous sommes tous les enfants de Freud et disons que parfois on en fait un peu trop, quoi.
Bah ouais, parce que quand on voit pas, on se dit ça y est, c'est dans l'esprit, donc.
Ah, parfois, c'est vrai. Mais pour ce qui concerne l'électromagnétisme, c'est un processus purement physique, parfaitement défini, avec des lois physiques et mathématiques, etc., etc., quoi.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Je vous en
prie. Au revoir.
Au revoir, Dominique. Et ce n'était pas la même. Donc, la troisième Dominique est bienvenue au 44-44.
Encore une Dominique?
Ou 45-45, les autres Dominique. Également. Une remarque très poétique de Usher sur le chatroom. J'espère que vous allez apprécier. C'est souvent une question, c'est plutôt deux lignes de poésie. Si l'eau a de la mémoire, on devrait mettre ses larmes sous fiole, offrir celle-ci à la personne qui est à l'origine de notre chagrin.
Ah, ça c'est très 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 joli. Je me demande même si je vais pas commercialiser le produit pour gagner de l'argent pour Digibio.
Les larmes étant salées.
Oui.
Le chagrin est effacé.
Le chagrin est effacé, oui. Alors mais ça peut rester à condition de ne pas les agiter. Alors donc il faudra trouver le moyen de mettre des larmes dans un récipient sans agitation.
Alors Zoé vêtue de ciel, la poésie est dans son nom, dans son pseudo lui-même. Question pour l'invité, le docteur Jacques Benveniste. Avez-vous entendu parler des travaux de Sylvie Simon sur la transmission de l'information des infos, de l'information des infos? Ça, je comprends moins bien. Expérience faite avec deux verres de sang de porc. L'un est infecté d'un virus, l'autre non. Dans ce verre-là, un anticorps s'est formé. On répète l'expérience avec un plexiglas entre les deux verres. Pas d'anticorps créé dans le deuxième verre. Qu'en pensez-vous? Sylvie Simon donne une explication. L'existence de biophotons. Jacques Benveniste.
Alors, biophoton, c'est Fritz Pop. L'expérience en question, j'en ai pas entendu parler. J'ai entendu parler d'expériences assez connues faites par des Russes qui disaient qu'ils pouvaient transmettre une activité virale d'un tube à un autre. Moi, j'ai tendance à penser que, enfin, j'ai pas tendance à penser. D'ailleurs, j'ai vu le transfert dans mon laboratoire. On a vu parfois un transfert d'informations d'un tube à l'autre sans transfert de matière, ce qui est assez banal parce que s'il s'agit de champs électromagnétiques, ça voyage et donc ça peut voyager d'un tube à l'autre. Maintenant, l'expérience dont on me parle, je ne la connais pas, je ne sais pas où elle est rapportée, éventuellement publiée, je ne sais pas qui est cette personne et je ne comprends pas comment... tube de sang peut fabriquer des anticorps. Mais je pense que la personne qui a interprété l'expérience elle-même n'est pas biologiste et ne l'a pas forcément parfaitement comprise.
L'un est infesté d'un virus, l'autre non.
L'autre non, oui. Et des anticorps apparaissent dans celui qui n'est pas infecté. Alors, les anticorps ne peuvent pas apparaître dans du sang pur. Il faut qu'il y ait un système lymphoïde, des ganglions, une rate, des cellules... des cellules B, des cellules T, enfin c'est un système extrêmement complexe avant de produire des anticorps, puis ça demande beaucoup de temps. Donc je ne pense pas que simplement en mettant du sang à côté d'un virus, le sang va se charger en anticorps. Ou alors c'est qu'il avait d'anticorps avant et qu'on n'avait pas détecté.
Non, mais que le phénomène se passe d'un récipient dans l'autre par une
sorte de... Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que on trouve une activité électromagnétique de type viral dans l'autre récipient, oui. Pas le virus lui-même, parce que le virus lui-même, c'est une particule, il passe pas à travers la paroi. Mais que l'autre sang ait fabriqué des anticorps, ça sûrement pas. L'expérience n'est pas valable, soit a été pas bien décrite par quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Et de toute façon, moi, je n'ai pas ces références. Alors, si quelqu'un a les références de cette expérience, elle m'intéresse, parce que moi, je suis ouvert, comme je l'ai dit, à toute anomalie, ce qu'on appelle des anomalies, qui sont des choses intéressantes en science. Et ben, les 7 personnes peuvent écrire sur mon site,
digibio.com.
Il y a de quoi correspondre, et m'indiquer les références exactes, me donner les détails expérimentaux. Et à ce moment-là, ouais, je pourrais avoir une opinion.
Jacques Benveniste, vous connaissez sûrement cet exemple, cette image des girafes et des acacias.
Oui.
Ça vous évoque quelque chose?
Oui, ça m'évoque quelque chose, mais j'ai oublié. Rappelez-moi.
Alors, les acacias sécrètent un repoussoir parce que ils en ont assez de perdre l'écorce lorsqu'un troupeau de girafes vient à frotter son cou le long de son tronc. Je crois qu'un professeur avait emmené ses élèves battre des acacias à coups de bâton pour observer quelques kilomètres plus loin la sécrétion de cet agent repoussant. Ça vous évoque quelque chose comme transmission de l'information?
Oui, enfin, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle les phéromones, c'est-à-dire un produit chimique, un papillon femelle va sécréter, qui va être perçu par un papillon mâle à quelques kilomètres de ça. Il y a beaucoup de choses que l'on peut imaginer comme étant une transmission plutôt de type radioélectrique, une transmission physique. Un exemple qu'on cite également, ce sont les bancs de poissons. Il y a des bancs de poissons qui sont constitués de plusieurs milliers de poissons et qui naviguent d'une façon tout à fait parallèle, sans jamais se cogner.
Comme un seul corps, ouais.
Comme un seul corps, et qui surtout, lorsqu'ils se mettent à tourner, tournent pas comme un camion qui prend un virage. Tous les poissons tournent en même temps, quoi. Donc là, il y a forcément...
Les oiseaux.
Les oiseaux, bien sûr, quand ils volent en groupe. Bon, là, on n'a pas besoin d'évoquer des histoires genre mémoire de l'eau, tout simplement des signaux, soit de type ultrason, ce qui est tout à fait possible, soit peut-être même des ondes de type radio qui peuvent être émises et qui peuvent contrôler ce genre de choses. Mais là, comme c'est pas ma spécialité, il est possible que je dise des bêtises et qu'il y a des gens qui connaissent ça mieux que moi. Donc qu'il y ait des transmissions à distance par différents procédés dans différentes espèces animales ou végétales, ça ne fait absolument aucun doute.
Une intervenante également sur le chatroom vous demande, ne peut-on penser que le travail fait par la psychanalyse s'apparente à une information type « I love you » alors que la thérapie médicamenteuse agit par la chimie? L'électromagnétisme serait à l'exacte jonction, n'est-ce pas?
Oui. Alors, comme disait le général, vaste programme. Alors là, si je dois me prendre en plus partie dans la querelle sur la psychanalyse, je sens que là, du coup, je vais y laisser mes vieux os. Non, je ne crois pas qu'on puisse raisonner comme avec des analogies de ce type. Je pense rien sur ce sujet. Non, c'est une analogie. Bon, on peut toujours la faire, mais comme moi personnellement, je n'ai pas. Les travaux qui montrent que l'eau réagit à un message écrit sur le verre « I love you » m'ont pas convaincu, alors je peux dire que je suis pas convaincu par l'ensemble de la proposition. Voilà, on va s'en tirer comme ça.
Autre remarque, ou plutôt question, une synchronisation des ondes cérébrales et auditives est-elle possible?
Ah, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Une synchronisation des ondes cérébrales et auditives. Non, les ondes cérébrales ont des fréquences propres, l'onde auditive. Si je peux comprendre la question, ça pourrait vouloir dire, est-ce que ce que nous entendons a une influence sur le fonctionnement cérébral? Voilà. Alors là, ça, c'est oui, bien sûr. C'est absolument évident. Je veux dire, on ne fait pas sortir les soldats des tranchées en leur jouant Dodo l'enfant d'eau et on n'endormira pas les enfants en leur jouant la Marseillaise à 80 décibels. Donc c'est clair que quand on écoute une musique lente et grave, on se sent immédiatement triste, et rapide et aigu, on se sent joyeux. C'est sûr que l'autorité est liée dans notre esprit à une voix plutôt grave. Et si je peux me permettre de faire une remarque que j'ai faite indirectement au moment de la dernière élection présidentielle, la voix qui a manqué à Lionel Jospin, c'est la sienne essentiellement, car lorsque Jospin s'excite, il a une voix aiguë, il grimpe, et beaucoup de mes amis, notamment femmes, m'ont dit que jamais elle voterait pour quelqu'un qui a une voix de fossé. C'est quelque chose de très profond. Dans notre espèce, l'autorité, n'en déplaise, je ne vais pas faire un commentaire très féministe, mais l'autorité est liée au caractère grave de la voix, et alors que les voix aiguës évoquent plutôt des choses plus ludiques et moins autoritaires.
J'entends que vous faites allusion à notre ministre des Armées.
Oui, mais le ministre des Armées pose moins de problèmes au sens que c'est une femme et qu'on s'attend à ce qu'elle ait une voix de femme. Bon, mais il n'y a pas trop de problèmes. Cela dit, il y a des femmes qui ont des voix aiguës et qui ont énormément d'autorité et qui réussissent très bien dans leur métier. Il faut pas. C'est une remarque générale. Le grave est lié en général à quelque chose de sérieux. Et encore une fois, les marches militaires, c'est pas le petit vin blanc, quoi. Bon.
Alors, et une seule avait la voix de Rita Hayworth.
Voilà.
Une autre intervention nous montre évidemment que des auditeurs ne cessent de prendre le programme en cours de route. Ils s'interrogent, mais vous avez répondu à peine un quart d'heure, donc bienvenue à cet auditeur qui vient de se connecter sur 95.2. Il dit ceci: si l'eau enregistre le spectre électromagnétique des autres molécules, comment l'efface-t-elle? Sinon, dans chaque verre d'eau, il y aurait des milliards d'informations, n'est-ce pas?
Absolument. Alors, de toute façon, c'est pas très, très grave s'il y a des milliards d'informations qui ne rencontrent pas le système biologique sensible. Parce qu'il y a également des milliards de systèmes biologiques, et ensuite il y a beaucoup de systèmes d'effacement. Et je vous dis que le plus simple, c'est de chauffer l'eau à 70 degrés pendant une demi-heure, et toute l'activité qui est inscrite disparaît immédiatement. Des champs magnétiques, l'agitation simple. Si on prend un tube d'eau qui contient une information, si on l'agite pendant plusieurs heures, et bien l'information va disparaître. Les champs électromagnétiques ambiants également les effacent. Donc c'est un peu comme une bande magnétique. Un champ magnétique inscrit une voix ou une musique, et un autre champ magnétique l'efface. Voilà.
C'est pourquoi il faut mettre du sel dans son potage et bien tourner.
Comme ça, on efface, comme avait écrit cette revue, les canards qui font caca dans le lac Léman, avec une grande élévation scientifique.
Très, très bien. Le téléphone ne cesse de sonner, mais apparemment, vous n'avez pas compris le message. Puisqu'on est dans une émission sur l'information, le message est que vous devez libérer l'affichage de votre numéro de téléphone, parce que on a décidé de faire sérieux ce soir, pour honorer notre invité, de ne pas prendre les numéros masqués. Donc c'est aussi simple que ça. Libérer.
Mais comment on fait pour libérer? Comment on fait pour libérer
3651, je crois. Enfin, ceux qui
savent. Ah, ben, ceux qui font 3651, le masque.
Oui. Eh bien, on refait dans l'autre sens. C'est comme un interrupteur, un switch.
Voilà. S'ils font 36-51, ils vont toujours le masquer. Mais s'ils raccrochent, ensuite, il n'y a plus de 36-51, donc leur numéro va apparaître.
Enfin, ils ont su le masquer, ils doivent savoir.
De toute façon, on ne communique pas les numéros, alors ils peuvent être assurés, je ne vais pas leur envoyer des ondes électromagnétiques nocives.
Allez savoir, sur 95.2 la fréquence. 95.2, ici et maintenant, ici et maintenant.com, c'est le site internet. Et là se trouve le chatroom. C'est également ici et maintenant.com le moyen d'entendre les rediffusions de cette émission, comme de l'archive de 1995, dans les prochaines heures et les prochains jours. Le standard est le 01 45 75 44 44 et 01 45 75 45 deux fois. ici, à maintenant 95.2. Sur le chatroom du site internet ici et maintenant.com, on nous demande si le docteur Jacques Benveniste connaît Nikola Tesla et ses travaux sur l'énergie libre.
Oui, enfin, on connaît Tesla, qui était un grand physicien et un grand découvreur. J'ai eu récemment dans mon laboratoire une machine qui s'inspire des travaux de Tesla avec une nomenclature qui ne me revient pas à l'instant. Elle n'a pas marché. Il n'y a pas eu de... La machine était censée produire plus d'énergie qu'elle n'en consommait, quoi. Et on n'a rien vu. Enfin, on a vu des choses, mais qui peuvent s'expliquer d'une façon extrêmement simple. Donc, au moins pour cela, les hérités de Tesla ne me paraissent pas très très sérieux, quoi. Ça s'appelle les ondes, je sais plus comment. J'ai plus ça en tête. Bon. Donc moi, je ne suis pas physicien et je travaille pas du tout dans le même domaine, donc je ne dirai rien d'intelligent sur le sujet.
Vous avez dû remarquer, si vous naviguez beaucoup, que sur le net, il se propose quantité de machines justement qui seraient censées produire plus d'énergie qu'on leur en donne.
Oui.
Des solénoïdes, des mm-hmm. des appareils toriques.
Oui, absolument. Et puis aussi l'énergie du vide, le vacuum pump. Là, il y a beaucoup de sites là-dessus. C'est comme il est possible que parmi tous ces gens-là, il y en ait qui a de vraies bonnes idées. Il doit y avoir beaucoup qui prennent leur désir pour des réalités.
Mais l'énergie du vide, toutefois, c'est une véritable découverte, ça.
Oui.
Dans un vide assez poussé, à part une énergie.
Oui, absolument. Mais bon, pour le moment, je ne sais pas si on va pouvoir un jour utiliser cette
énergie faut-il pour créer un tel vide,
pour la pomper. C'est sûr qu'il y a, enfin, à un moment donné, j'étais fait partie d'un groupe de discussion américain là-dessus. Et il y a des scientifiques très sérieux, très haut niveau, qui discutent très librement de ces problèmes. Mais encore une fois, on ne trouve pas de français là-dedans, quoi. C'est très spécifiquement anglo-américain et russe. Je n'ai pas d'opinion particulière là-dessus, je ne suis pas physicien et je ne dirais pas de choses intelligentes.
Alors, autre question de Cheers, que nous saluons, première intervention. Bonsoir, y a-t-il un espoir de pouvoir nettoyer les eaux non potables du tiers-monde par une émission EM électromagnétique?
J'ai fait pas mal d'essais, moi, pour essayer de tuer des bactéries avec les moyens dont je dispose à l'heure actuelle, et jusqu'à présent, je n'y suis pas arrivé. Donc c'est un des domaines où je considère avoir eu un échec. Cela dit, je sais très bien que je travaille avec des puissances qui sont un petit peu ridicules et que si on veut s'intéresser à ce problème, il faudrait grouper un certain nombre de scientifiques et trouver le bon système. On doit pouvoir trouver une molécule bactéricide qui puisse être numérisée et que l'on puisse et qui puisse agir par son signal. Je pense que ça doit être possible. Moi, j'ai réussi à arrêter les cœurs de cobayes avec des produits purement numériques. Donc, je pense qu'on doit pouvoir tuer une bactérie.
Des produits purement numériques, autrement dit, de l'eau.
De l'eau qui a reçu une information provenant d'un ordinateur.
Laquelle est mélangée au plasma?
Laquelle est mélangée au perfusé, par exemple, à travers le cœur, et contient une information qui est toxique pour le cœur, par exemple une endotoxine bactérienne, justement, et on a eu des arrêts cardiaques très très spectaculaires.
Face à un groupe témoin
Face à un groupe témoin où, lorsqu'on passait un signal différent, on n'obtenait pas, voire même lorsque le cœur provenant non pas du même animal, mais d'un autre animal, était recueilli dans des conditions qui faisaient qu'il n'était pas sensible à l'endotoxine. Donc là, on pouvait en passer autant qu'on voulait, il se passait rien. Mais dès qu'on passait ce signal, endotoxine, le cœur avait des symptômes de souffrance et parfois même s'arrêtait. Donc on sait faire des dégâts avec ce genre de choses. Et on doit pouvoir trouver, mais pour le moment je ne l'ai pas trouvé, et comme je n'obtiens pas de collaboration. Alors par contre, ce qu'on pourra faire très vite, c'est au moins faire de la détection. C'est-à-dire savoir que tel ou tel eau est contaminée par telle ou telle bactérie, parasite, tout ça, et tout ça à distance, sans avoir besoin d'un laboratoire coûteux et qui n'est pas à la portée des pays, notamment des pays du tiers-monde. Ça, oui, on doit pouvoir le faire assez vite.
Parce que un robinet émetteur des polluants, c'est la clé d'une fortune fabuleuse. Tout le monde en a besoin.
Oui, bien sûr. On peut imaginer qu'on mettrait une bobine sur le circuit d'eau et que au passage, pour le moment, j'ai pas réussi à le faire.
Ça éviterait de boire salé et agité.
Voilà.
Bien, je vais rafraîchir ce chatroom, voir s'il y a d'autres messages en attente. Non, on en est à l'eau potable. Le chatroom ici et maintenant.com et le standard avec un numéro non masqué. C'est recommandé 01 45 75 44 44 ou 45 deux fois. Maintenant 95.2, on remarquait comme au fil des émissions, au fil des mois et de la pénétration de l'Internet en France, il est finalement très commode de poser une question simple, courte, sur l'Internet et sur un chatroom. Et voici que d'autres arrivent, comme celle-ci. Comment un spectre électromagnétique d'une molécule peut-il avoir une action sur un organisme vivant, sur celle-ci, alors qu'il en est séparé? Comment un spectre électromagnétique d'une molécule peut-il avoir une action
alors qu'il en est séparé? S'il en est séparé, il peut pas avoir l'action, ça c'est évident. Je dirais il en est le même pour toutes les formes de rayonnement.
Mais vous en parliez en début d'émission en disant que le contact vaut mieux, mais toutefois sans un contact étroit,
oui, attention, il peut avoir une action. Attention, il s'agit de millionièmes de millimètre. Lorsque nous bombardons un cœur avec une bobine et que un cœur isolé d'animal dans un système comme ça ou un plasma en train de coaguler, on envoie des kilohertz qui traversent 40 mètres d'eau ou traversent les murs de béton. Enfin, Radio Luxembourg, on l'entend à l'intérieur des pièces. Je dis pas pour Luxembourg ou n'importe laquelle autre. En grande zone. Donc, l'organe en question est baigné dans un champ électromagnétique. Je dirais, c'est la même chose que pour la lumière. Si vous êtes séparé de la lumière, c'est-à-dire dans une pièce obscure, vous ne voyez pas la lumière, mais si la porte est ouverte ou qu'il y a une vitre, là, la lumière pénètre, et dans ces conditions, vous êtes vous-même baigné dans la lumière. Donc évidemment, il faut qu'il y ait un contact entre le récepteur et le champ électromagnétique. De la même façon qu'il faut qu'il y ait un contact entre le champ électromagnétique émis par la molécule et le récepteur. S'il n'y a pas contact, s'il n'y a pas présence, il n'y a pas d'effet.
Non, mais dès l'instant où il y a présence, comment se produit le passage de l'information, le signal?
Ah bah là, on en est réduit aux hypothèses, mais l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'il c'est comme s'il s'agit de deux signaux, qu'il y a une corrésonance entre les deux signaux.
Corrésonance, ça c'est votre réponse, c'est le mot.
Oui, c'est-à-dire bah corrésonance, c'est le fait un phénomène acoustique bien connu qui fait que quatre soldats marchant au pas avec une fréquence donnée peuvent faire effondrer un pont parce que ils ont trouvé la juste fréquence qui fait que le pont va se mettre à vibrer de plus en plus et que le pont va s'effondrer. Je crois que c'est arrivé dans la réalité, cette affaire. Ou des ponts qui se mettent à s'effondrer sous l'effet du vent, parce qu'il y a une fréquence du vent qui fait que... Donc là, c'est le principe de la radio. On ne prend une radio que lorsque... enfin, avant, il y avait les condensateurs variables, maintenant, je sais pas, c'est généré électroniquement, les
syntonisées.
Fréquences. Syntonisées, oui. Donc on ne prend une radio ou une télévision que lorsque le système vibre à la même fréquence que la radio. Lorsque le poste de radio vibre à 95,2, il prend 95,2.
Est-ce que la maladie serait due à une cacophonie?
Bah, il n'est pas absolument impossible qu'un jour on découvre que des anomalies pour disons un terme un peu idiot, mais enfin de fabrication, d'émission ou de réception des champs électromagnétiques puissent conduire à des désordres. C'est pas du tout impossible qu'on le constate dans le domaine des possibilités. Mais enfin bon.
Un instrument qui commence à jouer faux dans un orchestre.
Voilà, oui, par exemple, oui. Un message qui se fait mal parce que les molécules qui l'émettent
ne parviennent plus à rentrer en corrélation. Plus
exactement la même disposition dans l'espace, donc ce qu'elles émettent n'a pas exactement le même spectre. Oui, peut-être. Pourquoi pas? C'est pas inimaginable.
Bien.
Mais c'est pas démontré.
C'est encore une piste.
Voilà.
Bien. Thiers apparemment est une de vos familiers qui dit merci Jacques pour cette réponse tout à l'heure. Tu m'auras peut-être reconnu. C'est Thiers qui disait, y a-t-il un espoir de pouvoir nettoyer les ondes non potables du tiers-monde par une émission électromagnétique? Apparemment quelqu'un qui vous connaît.
Ah, je me demande si cette personne-là n'habite pas en Bretagne.
Et nous écouterait par le net.
Et je l'aurais eu au téléphone il y a deux jours. Et si c'est ça, elle peut confirmer.
Très bien.
Mais attendez, en Bretagne, elle peut pas prendre 95,2.
Si, bien sûr.
Ah oui?
Ah mais elle habiterait Tokyo, ce serait...
Non, sur le net?
Oui.
Ah bon, d'accord. Oui, non, bien sûr, non, je pensais...
Non, vous êtes écouté hors de l'Île-de-France, l'autre côté de la planète.
Sur le net.
Sur le net. Un ami me disait, je travaille maintenant non plus à Paris mais à Munich, je passais des vacances à Angkor et je vous écoutais dans ma chambre d'hôtel à Siem Reap.
Oui, non, ça bien sûr, sur le net, on s'en sert comme ça, mais je vois de si une personne s'intéresse au tiers-monde, je vois de qui il s'agit, oui.
Très bien. Je rappelle votre site internet, votre propre site internet, où il y a d'ailleurs une expérimentation en vidéo. C'est digibio.com. Donc www.digibio.com. C'est également le moyen par lequel on peut communiquer avec vous, vous écrire. Un intervenant précédent, à propos des deux récipients de sang de porc, etc., rassemble les éléments et va vous contacter par ce moyen, Jacques Benveniste. Donc voilà, le net... renforce les contacts ici et maintenant.com pour nous écouter et le chatroom de ce site pour intervenir. Quant au standard, 01 45 75 44 deux fois. Il y a un petit moment qu'on n'a pas entendu vos voix. Vous semblez très fort concentré sur le chatroom. Alors, pour vous faire entendre, 01 45 75 44 44 ou 45 45. Radio Ici et Maintenant, 95.2, Didier Deplage et son invité Jacques Benveniste. Un message pour le docteur Benveniste de Tony sur le chatroom d'ici et maintenant.com. Tony nous dit, cette nouvelle théorie des interactions moléculaires par signaux électromagnétiques ne peut-elle pas éclairer d'un jour nouveau le phénomène du cancer, parenthèse, problème d'émission défectueuse par exemple, et suggérer des thérapeutiques basées sur la détection de ces signaux erronés?
Oui, 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 mais pourquoi le cancer particulièrement? Si on détecte des signaux différents, ne disons pas erronés, mais différents, on dira que, ce qui est hautement probable, que les cellules cancéreuses émettent des signaux qui sont pas les mêmes que les cellules normales. Là, bon, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Maintenant, comme on ne comprend rien au processus de cancérisation et qu'on ne sait pas pourquoi une cellule devient cancéreuse, toutes les hypothèses sont possibles. On peut imaginer très très bien qu'une cellule soumise pendant des années à, ou un type de cellule ou un organe à des stimulations électromagnétiques, comme le dit l'éditeur, erronées, puisse à un moment donné se mettre à bafouiller et qu'une séquence critique du contrôle de la croissance cellulaire se mette à mal fonctionner. Bon, ben, tout ça, c'est complètement hypothétique, et vous savez, c'est comme avant de découvrir le bacille responsable de la tuberculose avait 45 causes. Mais quand on a découvert le bacille, on s'est rendu compte que toutes les causes étaient des causes favorisantes, la pousse du bacille ou le contact avec le bacille, c'est tout. Donc lorsqu'on trouvera, si on trouve une cause unique pour la cancérisation, il est possible qu'il y en ait plusieurs différentes, eh bien on verra bien si à l'origine il peut y avoir un dérèglement électromagnétique. Mais pour le moment, ça peut aussi être la conséquence du cancer. Donc il faut travailler beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on commence par admettre cette biologie, cette... Non pas, c'est pas une biologie différente, c'est un point de vue différent sur la biologie, puisque la biologie, la vie, il n'y a qu'une forme de vie, il n'y en a pas 50. Donc, à partir du moment où on trouvera le moyen d'étudier ce phénomène de cancérisation, eh bien, on pourra essayer de comprendre et voir quel rôle jouent les variations du signal.
Mais il peut sembler qu'à court terme, on puisse établir une liste des produits qui ont davantage tendance à nous convenir que ceux qui nous seraient néfastes, ça paraît à la portée de main,
Oui, on peut effectivement,
encore ceux qui sont en résonance favorable, ceux qui pourraient être aggraver.
Oui, mais qu'est-ce qu'une résonance favorable? Il faudrait avoir une bonne expérience des spectres électromagnétiques de chaque type cellulaire, de chaque organe. C'est quand même un énorme boulot avant de décider que je bois un verre de jus de carotte et puis le signal de mes cellules hépatiques commence à se dérégler. Vous voyez, on n'en est pas là, quoi. Bon, il faut bien comprendre, on en est à l'Antoinette de Blériot, et on n'est pas au Boeing ou à l'Airbus qui traverse l'Atlantique en 7 heures avec 300 personnes à bord, quoi. Mais si il n'y avait pas eu l'Antoinette de Blériot, il n'y aurait jamais eu l'Airbus.
Vous parliez de jus de carotte. Comment peut-on envisager, espérer, ou faut-il carrément renoncer à transformer un liquide en jus de carotte en lui passant les fonctions du jus de carotte d'origine?
Ben, on m'a posé la question pour le whisky ou pour le porto. On pourrait imaginer à un moment donné qu'on ait des systèmes suffisamment puissants pour qu'on fasse des ersatz. J'espère qu'on le fera jamais, parce que si on veut prendre du jus de carotte, on n'a qu'à prendre des carottes et puis en extraire le jus. C'est encore bien meilleur. Mais on peut imaginer effectivement qu'on puisse reproduire des odeurs. Les odeurs, c'est jamais qu'une molécule qui envoie son champ et qui corrésonne avec un système récepteur très sensible. On pourrait d'ores et déjà travailler sur le sujet si on trouvait des collaborations. Les phéromones, par exemple, aussi. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à synthétiser des choses plus complexes. C'est pas impossible. C'est vrai que quand on imagine les premiers ordinateurs, en 45, avec qui tenaient dans un immeuble avec un système de refroidissement, et qui était beaucoup moins puissant qu'un petit portable qu'on transporte maintenant en bout de bras. Les choses vont vite, quoi. Mais d'abord, il faut débloquer la communauté scientifique et montrer que c'est un résultat scientifique comme un autre. On n'en est pas encore tout à fait là.
Et quel est le rôle, l'importance du stress dans un changement vibratoire? Est-ce qu'il est profitable jusqu'à un certain point? Est-ce qu'on peut le voir dans une courbe? Et puis, carrément, franchement, nocif, passer un cap?
Vous anticipez, là, encore une fois, vous me posez une question qui présuppose que je peux analyser les signaux et les comparer les uns aux autres. Et dans l'état actuel des choses, je ne peux pas le faire. Donc je suis incapable de répondre à votre question. Mmh. Incapable. D'autant qu'il y a stress et stress et que, mais ce sera très 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 intéressant, effectivement, d'avoir sur un écran un spectre fréquentiel correspondant à tel ou tel organe. Et puis de créer un stress et de voir ce que devient ce spectre. Oui, effectivement, on n'en est pas là. On n'a pas les outils pour le faire.
Comme, je sais pas, l'adrénaline peut être profitable jusqu'à un certain point et tourner poison.
Mais votre question, ça revient à poser la question à Blériot. Voilà, est-ce que vous croyez qu'un jour on traversera l'Atlantique avec 400 personnes dans un avion en 7 heures? Et le malheureux, il vous aurait dit, écoutez, pour le moment, j'essaye tout seul de traverser le Pas-de-Calais. Alors, vous savez, votre question, moi, je peux pas répondre. Oui, c'est peut-être possible si on fait des avions de plus en plus gros avec des moteurs de plus en plus puissants. Pourquoi pas? Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Si un jour on a du matériel plus puissant, pourquoi pas?
C'est parfait. C'est déjà très, très ouvert d'en être pour ce soir un pourquoi pas plutôt qu'une porte systématiquement fermée comme quelques Nobel récents en font profession.
Non, pas récent. Parce qu'en France, ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu, ou 35 ans qu'on n'a pas eu un prix Nobel en médecine.
C'est-à-dire, ce n'est pas possible parce que j'ai décidé que je n'avais pas le temps de m'y pencher, par exemple.
Voilà.
Alors, une autre intervention sur le chatroom. Il paraît que les champs magnétiques alternatifs de 50 Hz bloquent le phénomène de mémoire de l'eau. Est-ce vrai? Si oui, cela signifierait-il qu'il bloque aussi les phénomènes de co-résonance qui ont lieu dans notre corps, vu que nous sommes câblés EDF partout dans nos murs?
Oui.
Dans des champs de 50 Hz, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, ça revient à poser des questions du genre, si je prends un pain de dynamite et que je le mets sous ma maison va sauter en l'air, va exploser, est-ce que je peux faire sauter la Terre? Il faut un petit peu plus de dynamite. Disons que lorsque nous avons fait ces expériences in vitro, nous appliquions un champ de 50 Hz, parce que c'est pratique, c'est fourni effectivement par maman EDF, mais avec une puissance tout à fait considérable, qui est l'équivalent de 300 à 400 Gauss. On dit Oersted parce que c'est des champs oscillants, mais c'est des Gauss. Donc un très fort aimant déjà. À aucun moment, aucun d'entre nous ne se trouve au contact de champs de ce type aussi puissant. Alors, sauf dans des conditions bien précises où les appareils sont au contact direct de la peau. Alors, on peut imaginer, ça fait des années que les compagnies d'électricité américaines recommandent de ne pas utiliser régulièrement des appareils où les champs sont au contact de la peau, par exemple un rasoir électrique, voire même une brosse électrique, brosse à dents électrique, etc. Mais tout cela n'est pas démontré. On n'a pas montré qu'un rasoir électrique ça crée des dégâts. C'est une précaution, mais on n'en sait rien. Donc disons que tous ces champs existent, sont des champs 50 Hz, mais sont très faibles, et que par conséquent, encore une fois. Si vous êtes à 5 mètres du lieu d'explosion d'un pan de dynamique, vous risquez de vous faire tuer. Si vous êtes à 50 mètres, ça sera déjà beaucoup mieux. Si vous êtes à 5 km, il se passera rien. Et c'est pourtant la même dynamite qui a explosé. Donc c'est une question de puissance par rapport à l'organisme. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas incriminer les champs de 50 Hz dans la survenue de maladies quelconques.
D'accord, donc vivre au centre d'un petit studio cerné par une ligne électrique d'alimentation sur 50 Hz, c'est pas...
Écoutez, non, l'exemple aussi c'est le radar. Il y a des gens qui vivent à proximité des aéroports et qui donc il y a des radars qui tournent. Et, alors les opérateurs radars ont des leucémies et des cancers. Ceux qui sont sans arrêt au contact, il y a des précautions très importantes qui sont prises maintenant parce qu'on a détecté dans le temps des... Bon, je suppose que maintenant on a trouvé des systèmes pour les protéger. Mais eux, ils sont au contact de l'émetteur, quoi. Donc il y a une puissance tout à fait considérable. À distance, il y a plus rien. Donc, alors bon, il se peut que dans certaines circonstances, et en particulier, il y a des gens qui travaillent sur des courants de très très faible intensité, notamment des courants de retour à proximité des voies de chemin de fer, et qui décrivent des problèmes qui peuvent être importants. Mais encore une fois, cela ne fait pas l'objet d'études suffisantes et on ne peut pas affirmer que dans l'état actuel des choses, c'est réel ou ce sont des possibilités qui ne se traduisent pas dans la réalité.
Ce qui pourrait nous amener aux ondes pulsées, que dites-vous d'un signal, est-ce que vous le trouvez plausible, un signal de 26 ou 27 Hz, aurait-il pour effet de favoriser l'alignement protéinique, par exemple?
J'en sais rien.
Non? Donc c'est aussi une question de message, de transmission de message, qui chante sa petite mélodie. Non,
là, je déborde largement de ma sphère de compétence ou d'incompétence.
Pourtant, les ondes pulsées, vous connaissez.
Oui, bon, d'accord, les ondes pulsées, oui, mais je n'ai pas personnellement l'expérience de ce type de résultat. Donc, il faut demander ça à des spécialistes de ces problèmes.
Très bien. Alors, qu'avons-nous sur le chatroom? Il faut rafraîchir cette page. En permanence, non, effectivement, rien de neuf, on en est au champ alternatif de 50 Hz. Voyons, côté standard téléphonique, 01 45 75 44 44 ou 01 45 75 45 deux fois.
Radio Ici et Maintenant, 95.2, le 01 45 75 44 44 est libre. Et nous accueillons Marie-Christine. Marie-Christine, bonsoir.
Oui, bonsoir. Et merci d'avoir fait cette émission. Moi, effectivement, j'aurais une question à poser, mais désolée, je crois que ça a un peu à voir avec les sorcières sur leur balai, mais en tout cas, j'ai déjà entendu sur Ici et Maintenant plusieurs personnes dire que elle guérissait des animaux, notamment en mettant simplement la main sur eux, et c'était souvent des gens qui avaient honte de ça parce que ils avaient peur d'être pris pour des bizarres ou des fous, etc. Est-ce qu'on peut considérer que ces gens qui peuvent guérir les, par exemple, des animaux, enfin qui ont cette espèce de don de guérison, pour autant qu'on puisse y croire, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des gens qui auraient une faculté particulière de percevoir les émissions électromagnétiques des cellules, etc., et qui seraient, un peu comme des gens qui sont doués pour le calcul mental et qui calculent les racines carrées de n'importe quel nombre très rapidement, est-ce que ça pourrait être de cet ordre-là? Est-ce qu'on peut interpréter ça comme ça?
Oui, eh bien, il y a deux étapes à votre question. La première, c'est de savoir si ce qui est décrit, ces actions thérapeutiques, notamment par par imposition des mains, c'est vrai, ça existe vraiment, ou aussi, comme le disent certaines personnes très rationnelles, ce ne sont que des supercheries. Encore une fois, je vous rappelle que moi je suis un médecin tout à fait classique, et je peux vous dire que j'ai été en contact avec des médecins aussi classiques que moi, qui avaient parfois des hautes responsabilités, et qui m'ont dit, bon, maintenant que j'ai pris ma retraite, je peux le dire, dans mon service, lorsque j'avais un problème, je vais venir un guérisseur qui faisait ci et ça. J'étais en contact moi-même avec des gens qui, dans des situations très précises, que sont les zonas ou les brûlures, ont, semble-t-il, un effet qui ne peut pas être simplement rapporté à un effet placebo. J'ai été en contact récemment aux États-Unis avec quelqu'un qui fait l'objet d'études tout à fait officielles par des organismes importants. Et j'ai pu voir sur moi-même qu'il m'a décrit des petites pathologies que je ressentais et que je, à aucun moment je lui avais communiqué. Donc il y a certainement des gens qui sont capables de percevoir inconsciemment parfois, mais sans expliquer exactement ce qui se passe, des situations que la plupart d'entre nous ne pouvons pas percevoir. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai, il y a des gens qui peuvent faire un calcul mental, il y en a d'autres qui ont des oreilles absolues, et alors que moi, par exemple, qui me concerne, je suis incapable de distinguer une note d'une autre. Voilà, donc pour admettre ça, c'est pas absolument impossible, et c'est pas impossible que ce soit lié à la perception de champs électromagnétiques de faible intensité qui sont émis par les uns et par les autres, et que peut-être dans le futur on se décidera à étudier d'une façon sérieuse ce genre de choses. C'est pas, ça ne me paraît pas farfelu, ça n'est pas démontré, mais c'est possible. Et ce que nous décrivons, c'est-à-dire le fait que l'organisme soit un véritable enchevêtrement de signaux, de milliards de signaux qui se déroulent en même temps et qui permettent d'assurer les liaisons entre les différentes molécules, peut laisser penser que certaines personnes puissent, si vous voulez, ressentir des influences qui portent sur ces systèmes alors que d'autres ne peuvent pas. C'est pas à rejeter complètement, c'est à étudier sérieusement et à ne rejeter que si on a la preuve que ça n'existe pas, mais pour le moment on n'a une preuve ni dans un sens ni dans l'autre.
Et auquel voilà. Cas les gens qui auraient ce don de guérison, en fait ce seraient des gens qui auraient le don de faire passer à la personne qu'ils guérissent ou à l'être qu'ils guérissent la bonne vibration, enfin la vibration nécessaire pour guérir la maladie.
C'est possible. Alors cela dit, moi je suis tout à fait convaincu que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il y a infiniment plus de gens qui soit s'illusionnent eux-mêmes de bonne foi, soit sont tout simplement des charlatans et racontent n'importe quoi. Et comme vous le savez, on donne n'importe quelle molécule placebo à quelqu'un et on a toujours 30 à 40% d'effets dans la plupart des malaises qui ne sont pas majeurs. Bon, on n'a pas ça dans l'infarctus aigu ni dans un cancer. Mais dans beaucoup de d'essais, on a un effet considérable de l'effet placebo, et là on se trouve avec ces histoires de guérisseurs, d'imposition des mains, tout ça, dans une situation très favorable pour avoir un effet placebo. Donc probablement ça existe aussi, ça joue un rôle. Mais à part cela, sur le plan du diagnostic, à deux occasions et dans un cadre tout à fait officiel dans un pays étranger, j'ai pu voir qu'une personne était capable de se rendre compte de par exemple de douleurs qui n'avait pas été exprimé et que cette personne ressentait. Et quand je lui ai demandé, mais comment savez-vous que moi, j'ai, en l'occurrence, s'agissait d'un mal de tête banal et que mon ami qui avait un peu trop couru mal aux jambes, eh bien, il me dit, je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Voilà, c'est comme ça. Et c'était tout à fait exact. Donc, moi-même qui suis extrêmement rationnel et un tenant de la médecine tout à fait classique, que je suis obligé de reconnaître qu'il y a des tas de zones que nous ne comprenons pas encore, et ça se comprend qu'on ne comprenne pas, puisque je vous rappelle que la recherche scientifique, ça date de deux siècles. Imaginez la connaissance que nous aurons dans 20 siècles, et on verra bien que beaucoup de choses que nous croyons vraies seront fausses, et beaucoup de choses que nous croyons fausses seront vraies.
Oui.
Voilà.
sincèrement. Mais, oui, la dernière partie de ma question, c'est est-ce qu'en fait on peut considérer ces guérisseurs dans le cas où ils existent, etc., comme des émetteurs en fait de vibrations bénéfiques ou d'ondes bénéfiques, d'ondes électromagnétiques bénéfiques permettant de lutter contre les maladies.
Oui, enfin, cela dit, à partir du moment où je vous répondrai oui, il faut bien admettre que le mot bénéfique est de trop, parce que si on a un effet sur un, c'est ça qui me choque souvent dans les prétentions d'un nombre de gens, c'est que quoi qu'ils fassent, tout va toujours pour le mieux. Les gens qui vous vendent des appareils, qui font ci, qui font ça, ils n'ont que des effets bénéfiques. Tout va bien. Bon, ben, quand on a un effet biologique, on doit avoir un effet bénéfique. Puis de temps en temps, on doit avoir un effet qui n'est pas bénéfique, parce que sinon, c'est pas possible que le système soit assez intelligent pour savoir que il doit s'arrêter à tel niveau qui fait qu'on va guérir et ne pas être aggravé. Ça paraît absurde. Bon, mais cela dit, bon, moi j'ai moi-même fait des expériences tout à fait claires démontrant que certaines personnes sont capables d'émettre des champs électromagnétiques. Ce sont des expériences qui sont faites dans des conditions qui sont absolument indiscutables. Mais elles sont très très rares, beaucoup moins fréquentes que certains veulent le dire. Bon, un homme comme le professeur Rocard s'était beaucoup intéressé à ces phénomènes et son livre sur le sujet est tout à fait passionnant. Il permet d'imaginer qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus sensibles à ce genre de choses que d'autres et qui peuvent également être également des émetteurs. C'est tout à fait envisageable. Je vous rappelle qu'il y a des machines très sophistiquées qui captent les ondes électromagnétiques du cerveau et s'en servent pour des diagnostics. Donc, on devrait pouvoir admettre que au moins le cerveau et peut-être d'autres organes émettent des champs électromagnétiques. Voilà, mais ça n'expliquera pas tout.
Non, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'arrive jamais à tout expliquer.
Oh, on arrivera à expliquer un jour beaucoup de choses, mais ouais. C'est une asymptote. On s'approchera de la connaissance sans jamais... la rencontrer.
Oui,
bon, faire de la philosophie, là. De la philosophie à 3 heures du matin.
Ben, je vous remercie.
Ouais, je vous en prie.
Merci, Marie-Christine.
Au revoir.
Docteur Benveniste, vous disiez vous-même que dans vos expérimentations, il fallait se méfier de la présence humaine. Certains opérateurs pouvaient, par leur présence, perturber le fonctionnement. Vous faisiez allusion à des comportements d'humeur, d'énervement, de parasites
de cette
sorte.
Non, pas du tout. C'est complètement indépendant de la volonté des gens. Pour le moment, on n'arrive pas à trouver une caractéristique qui expliquerait que ces gens fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Non, c'est indépendant.
Bien. On nous demande si vous connaissez le docteur Lambin d'Ostremont et son alerte sur les effets néfastes du portable au niveau des ondes.
Non, je reçois beaucoup de littérature américaine sur le sujet. Il y a un groupe américain qui lutte contre les effets des portables, mais je ne connais pas cette personne en particulier, non.
On nous demande également si vous pouvez nous dire quelque chose sur le système MORA, autrement dit l'utilisation de champs électromagnétiques pour traiter des maladies ou des problèmes fonctionnels. Le système MORA.
Ah oui, bah écoutez, les gens de MORA qui fabriquent la machine MORA, qui repose sur un principe décrit auparavant par un Allemand qui s'appelle Vol, tout cela repose sur le même principe, c'est l'étude de la résistivité de cutanée, et notamment de certains points qui sont des points d'acupuncture. Donc au niveau des points d'acupuncture, on pourrait détecter, à la fois appliquer des champs et détecter des fréquences. Alors moi je ne pense pas que l'on puisse résumer, je l'ai dit au début de l'émission, une activité biologique complexe, enfin celle d'une molécule, par une fréquence. Bon, c'est vrai que si on ne peut pas caractériser 95.2 par une fréquence, mais par la modulation de cette fréquence. C'est-à-dire qu'il y a une fréquence qui est d'une porteuse à 95.2, et puis si je parle, eh bien, on entend ma voix, et si on joue un disque de musique, on entend la musique. Donc, sur la même fréquence, on aura deux effets complètement différents. Il est vrai aussi que si on balance sur le poste de radio qui reçoit une fréquence une porteuse de 95.2 très puissante, elle va couvrir, elle va brouiller l'émission et on n'entendra plus rien. Donc on peut imaginer que dans ces conditions, on puisse influencer un champ, un, un système biologique. Si on, si on balance une onde d'une fréquence donnée, on puisse modifier le comportement, peut se concevoir. Alors, maintenant, c'est toujours la même histoire, si vous voulez. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus dans mon laboratoire avec des machines Mora, qui m'ont fait des démonstrations que je considérais comme scientifiquement non valables parce qu'elles n'étaient pas faites en aveugle. Et lorsque j'ai demandé qu'elles soient faites en aveugle, bah, les gens sont partis et n'ont plus voulu faire la démonstration. Alors, je ne dis pas qu'ils trichaient, mais je dis que ils ont peur parfois de se rendre compte, comme nous nous rendons compte, que nos systèmes ne fonctionnent pas tout le temps. Et j'ai même reçu une lettre un jour de fabricants de Mora me disant « Monsieur, vous avez piqué notre idée, c'est nous qui... » Bon, j'ai dit « Écoutez, moi je serais ravi de citer vos articles, envoyez-les-moi. » Et je ne les ai jamais reçus. Donc je dirais que pour le moment, je ne connais pas de publication d'ordre scientifique démontrant que les gens qui utilisent des machines Mora font exactement ce qu'ils prétendent. J'ai eu moi-même un diagnostic il y a plusieurs années avec une machine de type Mora et on m'a diagnostiqué un cancer d'évolution mortel en 6 mois, donc ce qui m'a quand même un petit peu déstabilisé pendant quelques heures ou quelques jours, mais bon, a priori, le cancer en question, il paraît guéri. C'est-à-dire que si on m'avait appliqué une thérapeutique de ce type ou d'une autre, j'aurais été guéri d'un cancer très grave. Oui, il faut se méfier beaucoup de gens qui utilisent ces systèmes complexes sans parfois complètement les dominer. Pour résumer ma pensée, je dirais que si on me propose un article scientifique, même pas publié, parce que c'est difficile à publier, mais au moins écrit, montrant exactement dans quelles conditions on peut arriver à détecter des maladies ou à influencer des maladies comme cela, eh bien, je l'accepterai. Et je peux vous dire que des études très sérieuses ont été faites, notamment en Angleterre, et que peut-être dans un cas, on aurait vu un succès diagnostique, mais évidemment, ça demandait à être confirmé. Voilà, c'est une histoire très floue, et je pense que les gens qui utilisent machine Mora ne font pas beaucoup d'efforts pour scientifiser leur démarche.
De toute façon, je conçois assez mal qu'on puisse se fier à un seul diagnostic, surtout s'il est grave, sans...
Ah ben là, on m'a annoncé très clairement que j'avais un cancer du pancréas, et que voilà, point final, quoi.
Bien, on s'achemine vers la conclusion de cette émission. C'est vrai que l'heure est assez avancée, on a passé un long moment ensemble.
Alors, oui, pour un vieux monsieur de mon âge, c'est peut-être pas très raisonnable.
Oui, vous me disiez ça en 95 à la même heure.
Ah bon?
Et nous avions continué une heure de plus. On va pas attendre 7 ans pour se retrouver. Je reproche à votre site de ne pas couvrir l'année 2002. Vous vous arrêtez à un bilan 2001.
Ah oui.
Au moment où la première machine sera à disposition de laboratoires étrangers, c'est maintenant chose faite en 2002. Voilà, je vous encourage à mettre à jour pour vos lecteurs un peu plus souvent.
Eh bien, je transmettrai vos reproches à la personne qui, chez moi, est chargée d'animer le site et qui, bien qu'il travaille 35 heures par jour, n'arrive pas, effectivement, à couvrir l'ensemble. On est une équipe ridiculement petite, de 4 personnes et demie, là où il en faudrait 15 ou 20. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier parfois un peu le site. On n'a pas fait de lettres d'information depuis janvier 01. Mais il faut dire aussi que à part quelques détails, il faut bien comprendre que nous faisons toujours la même expérience. On n'a pas évolué. Et que notre seul but, c'est que cette expérience marche d'une façon tellement régulière qu'on puisse la faire reproduire à l'extérieur. C'est là où le complot, entre guillemets, a réussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, en fait, on est encore en train d'essayer de démontrer, 15 ans plus tard, ce qui a déjà été reproduit, encore une fois, dans 8 à 10 laboratoires différents déjà, mais on est en train d'essayer de refaire la même chose, et toujours d'une façon de plus en plus complexe, et avec des laboratoires de plus en plus haut niveau, afin d'emporter la conviction. Donc on n'a pas grand-chose à raconter, de plus que ce qu'on faisait il y a un an, on fait toujours la même chose. Alors disons qu'on a eu des résultats positifs, intéressants, on a eu des problèmes, mais c'est effectivement pas tout à fait dans notre priorité, il faudrait qu'on s'y mette un petit peu plus.
Et ces 8 labos vont, tôt ou tard, vous passer comment d'un automate?
Ah ben non, les 8 labos, ce sont les 3 labos qui ont travaillé en 88 avec moi, et les 5 labos, enfin les 4 labos, dont un l'a fait 2 fois, de l'équipe pan-européenne, de résultats pan-européens, dont on peut trouver un compte-rendu sur notre site. Ces gens-là, ils ont vérifié que notre système fonctionnait, mais c'est pas du tout leur truc, ils travaillent plus dessus. Comme par ailleurs, il faut aussi voir ce phénomène tout à fait extraordinaire, c'est que moi je ne reçois évidemment aucun soutien du monde scientifique institutionnel, mais aucun soutien non plus du monde alternatif. Je reçois énormément, mais 10 par jour, de messages d'encouragement. Bravo mon vieux, ce que vous faites est formidable, continuez. Mais personne ne se mobilise pour, en particulier la communauté des homéopathes qui aurait tout intérêt. Enfin, moi je crois que s'ils réfléchissaient, ils feraient comme avec la GACAN. Vous savez, chaque année on le pesait et puis on lui donnait son poids en or, mais moi il me donnerait mon poids en diamant, parce que si je réussis, vraiment, ça leur apportera quelque chose. Ben, ils sont totalement indifférents.
Non, ils ont attendu 2 siècles, ils attendent patiemment que vous fassiez tout le travail.
Oui, j'ai proposé à une firme homéopathique, vous savez, nous on a le moyen de trouver l'activité dans des produits homéopathiques, puisqu'on ne regarde pas évidemment la molécule, mais on détecte l'activité par nos systèmes. Et donc je leur ai proposé de faire un contrôle de qualité, parce que les homéopathes ont un problème majeur, c'est que c'est la seule activité humaine qui est capable de mettre un produit dans une boîte sans savoir si le produit est dans la boîte. Il n'y a aucun moyen, à partir d'une certaine dilution, s'il y a une erreur, ils peuvent s'en apercevoir. Et bon, je pense que beaucoup d'échecs de l'homéopathie, c'est tout simplement dû au fait que y a rien dans les granules. Mais c'est pas de leur faute, ils peuvent pas le savoir, c'est comme ça, ils se fient à un procédé, et puis voilà, ça marche, ça marche pas. Alors nous leur proposons de pouvoir le faire. Eh ben, ils nous ont répondu qu'ils pourront faire la recherche qu'à partir du moment où la recherche sera faite, c'est-à-dire qu'on leur montrera que ça marche.
Vous pouvez évaluer la dilution de...
Non, je peux pas évaluer la dilution, mais je peux simplement dire, vous avez un produit qui est histaminum ou apis mellifica ou arnica, et ben, je retrouve sur mon système l'activité apis mellifica, histaminum ou arnica, ça, on peut le faire, puisqu'on dissout les granules dans l'eau, on les passe au système, on les enregistre sur notre ordinateur, et à l'inverse, on peut fabriquer aussi des granules à partir du système d'ordinateur, ce qui simplifierait beaucoup les choses.
Bien sûr. Mais vous avez déposé combien de brevets?
Ben on a déposé 7 brevets sur l'ensemble des choses, pas seulement là-dessus. Mais ça les intéresse pas, et puis en tout cas, il n'y a aucun financement dans ce domaine. Voilà, c'est assez spécial.
Une autre question sur le chatroom de ici-et-maintenant.com. Le professeur de physique français Arsène d'Arsonval utilisait il y a un siècle les champs électromagnétiques pour soigner les gens, enfin il met les guillemets à soigner, ouais. Et le médecin Jean Gauthier, quelques décennies après, constatait que cela normalisait l'activité cellulaire. Qu'en pensez-vous?
Voilà, c'est vrai, d'Arsonval a été un des pionniers de l'utilisation des courants électriques plutôt que des champs électromagnétiques. Et donc, c'était des procédés qui étaient très très utilisés dans les années 20. Les médecins utilisaient des procédés comme la diathermie, comme c'est tombé en désuétude. Possible que c'était mal étudié ou que finalement il y a eu un peu le vertige de la chimie. On a cru qu'on allait tout résoudre avec avec des molécules chimiques, avec des comprimés, avec des produits. Actuellement, on n'en parle plus beaucoup. Moi je ne pense rien, comme d'habitude, je ne m'autorise jamais à penser, déjà sur mes propres résultats, alors sur ceux des autres. Je pense que ce sont des gens que je connais qui utilisent des machines de très haute fréquence, dérivées des travaux d'un monsieur qui a travaillé entre les deux guerres, qui s'appelait Lakowski. Et on trouve des gens qui utilisent des machines Lakowski en ce moment. Et parfois, ils m'annoncent des résultats tout à fait formidables. Alors je dis, ben c'est très bien, tu vas publier, tu vas nous montrer une bonne série clinique, parce que là c'est facile, il suffit de faire croire aux malades que la machine est en marche et puis voir s'il y a un effet. Pour prendre des pathologies qui sont pas très très graves, quoi. Bon, si quelqu'un vient et qu'il a mal au cou, il peut attendre 2-3 jours si véritablement la machine doit le guérir ou l'améliorer. Et non, je peux pas le faire parce que tu comprends, j'ai pas le temps. Tu vas peut-être me dire simplement combien t'as vu de malades et quels sont les résultats, c'est un peu en ouvert comme ça, juste pour avoir une idée. Ah non, je n'ai pas le temps, et puis tu sais, mon ordinateur est plein, et j'ai pas de place pour entrer ces résultats. Voilà, alors c'est ce type d'attitude qu'on trouve le plus souvent, qui fait qu'on ne peut pas évaluer ces produits, et qu'on trouve trouver la machine Rife, qui soi-disant guérit le cancer depuis 1930, sur un site Rife, essayez de trouver une étude clinique depuis maintenant 70 ans, et ben vous ne trouvez pas. Donc, alors moi, je me fais engueuler des deux côtés, quoi, parce que mes collègues, mes ex-collègues du Léviathan institutionnel du système de recherche me considèrent comme un illuminé tout juste bon à chevaucher les balais dans les clairières les jours de pleine lune, les nuits de pleine lune. Et puis les autres, comme je leur dis sans arrêt, mais faites de la recherche et donnez-moi des résultats et montrez vos résultats et que je les engueule, ben ils m'aiment pas non plus. Alors je suis un petit peu embêté là, je suis en panne d'amour, mais je m'en passe très bien. Ne vous inquiétez pas.
Néanmoins, on peut vous aider si on était sensible, entre autres à cette émission ou à des publications et des écrits divers, parce que ben, vous occupez la scène depuis tant d'années et. Ben, vos supporters sont heureux de voir que vous battez avec constance, avec persévérance. Il y a donc un point de rendez-vous qui est votre site.
Oui. Et je dirais que dans l'autre sens, si les gens ont des informations précises à me donner, hein, pas du genre j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il a entendu quelqu'un qui a dit qu'une machine faisait ci et ça. Mais si des gens ont des résultats que l'on peut montrer, et même entre nous, moi je suis tout prêt à les examiner, et si je peux aider à quelque chose, ce qui n'est pas obligatoire, je suis tout prêt à le faire. Mais on peut pas travailler sur des impressions. J'ai acheté une machine comme ça, et puis depuis, je me sens beaucoup mieux et ma femme est de meilleure humeur. Ça c'est pas.
Non, je pensais à des aides concrètes pour, par exemple, du courrier ou
oui, bien sûr.
De la mémoire informatique. À disposition, si vous avez des.
Non, on n'a pas trop même. De. Enfin bon.
Enfin, de la disponibilité.
Faut être honnête. S'il y a des gens parmi les auditeurs qui ont envie de donner de l'argent au Téléthon, ben, on préférait qu'ils nous le donnent à nous, quoi. Ça me paraît plus intéressant et moins, en tout cas, moins sujet à caution. Bon, on a surtout besoin de petits, de gros investisseurs, de soutien matériel pour faire tourner une boîte qui coûte pas très cher, mais. Surtout besoin de ça, il faut pas se raconter des histoires, quoi.
Enfin, rappelons qu'après avoir quitté l'INSERM, là, tout récemment, vous êtes en train de faire le premier pas avec un nouveau démarrage dans le domaine privé. Donc, on va bientôt voir des étincelles.
Ah ben, ça fait longtemps qu'on a démarré, là. On a fondé la société en 97.
Vous étiez en parallèle dans les deux domaines, alors.
Non, moi, je travaillais comme chercheur INSERM, recevant de l'argent d'une structure privée comme l'immense majorité des chercheurs maintenant. Donc c'était un système tout à fait classique. J'en avais averti l'INSERM, le sujet les intéressait pas. Lorsque j'ai pris des brevets, je suis fonctionnaire, j'ai averti mon administration, et quand j'ai eu un refus de prise en compte des brevets, je les ai pris moi-même. Donc voilà. Donc la société soutient, et jusqu'à une période récente, on avait jusqu'à il y a deux ans plus d'investisseurs qu'on pouvait donner d'actions. Mais depuis deux ans, c'est de plus en plus difficile.
Et pour ceux qui ne disposent pas d'internet mais sont bien intentionnés, est-ce qu'il y a une adresse postale ?
Bah oui, il y a une adresse postale qui est à mon nom. 32 rue des Carnets, comme un carnet, 92 140 Clamart. Mais franchement, qu'ils s'attendent pas, s'il y a des gens qui m'envoient parfois des lettres de 18 pages, très bien faites, très intéressantes, mais que j'ai parfois même pas le temps de lire et que je pose sur mon bureau. Et je dispose pas de secrétariat et moi-même, je devrais travailler un peu moins que je le fais et on n'arrive pas à faire l'ensemble de ce qu'on a à faire. Donc ils s'attendent pas à ce que l'email est quand même intéressante parce qu'on peut taper trois mots en disant merci pour votre lettre, et puis là pouf ça part et puis on n'en parle plus. Une lettre c'est plus compliqué. Donc si vraiment des gens ont des choses très importantes à dire, ils peuvent le faire, mais je crois qu'actuellement la plupart des gens qui sont un peu actifs et ont accès maintenant à ordinateur, ils peuvent envoyer un courrier.
Donc, éviter les questions, apporter plutôt du concret, apporter plutôt des solutions.
Oui, non, les questions sont intéressantes, mais enfin, encore une fois, moi, je suis pas pique de la Mirandole et je peux pas répondre à absolument toutes les questions qui sont posées.
Très bien.
Voilà, ben on va peut-être terminer là. Je pense que il est l'heure de.
Oui, il est 4 heures de moins. Vous venez de rentrer dans le studio et voilà ce que ça donne. C'est maintenant que nous commençons la boucle. pour non seulement ceux qui étaient à l'écoute depuis le début, mais qui ont besoin de se l'entendre dire deux fois. C'est comme la relecture d'un bon bouquin, on comprend toujours davantage de choses la deuxième fois, en disant, tiens, ça m'avait échappé la première, alors vous travaillerez plus tard demain, c'est pas grave. Jusqu'à 7h du matin, nous sommes toujours en compagnie de Jacques Benveniste, mais ça reprend là juste maintenant. Vous êtes à l'écoute d'ici et maintenant, Alex à la réalisation, Didier Deplège pour la présentation, notre invité, le docteur Jacques Benveniste et son site internet pour communiquer avec lui, rester en contact avec lui, c'est www.digibio.com. Digibio.com. À bientôt.